Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Ça dit quoi. Très heureux de vous retrouver pour ma première de la saison, mais la deuxième émission Ça dit quoi de cette saison. Comme vous le savez, cette année, on alterne avec Loïc, hein. Une sur deux, une fois c'est moi, une fois c'est lui, une fois sur moi, une fois sur lui. On est en garde alternée, je garde les gosses les jeudis où il n'est pas là, et je lui rends les gosses le jeudi où il est là.
Fais gaffe parce qu'au Canada, tu sais bien que les gosses, c'est...
C'est quoi? Bon, on va rentrer dans le vif du sujet directement en présentant.
C'est les coucougnettes.
Bah, y a Coco à ma droite, pas de coucougnettes. Mais Cosette, comment ça va, Coco?
Ça va, ça va.
T'as passé une belle semaine?
Ouais, pratiquement couché comme la semaine dernière.
J'allais demander qu'est-ce que t'as fait de ta semaine, mais tu viens de répondre.
Ouais.
Et du coup, ça va mieux aujourd'hui? En forme?
Moyen.
Moyen,
on
moyen.
Cherche.
Bon, on va essayer de te redonner la pêche durant cette heure 30 d'émission. En face de Coco, tout de bleu vêtu, Darina. Comment ça va, Darina?
Bonsoir à tous et à toutes. Ça va très bien, sous la pluie.
Ouais, il pleut beaucoup aujourd'hui. Alors qu'hier, paradoxalement, il faisait très très chaud.
Ouais, bah moi ça m'arrange parce que hier je travaillais pas, donc j'ai bien profité.
Et ça va, t'as passé une belle semaine toi aussi?
Assez chargée avec pas mal de travail, donc on tient le coup.
Tu travailles dans quoi? Est-ce qu'on a le droit de raconter la vie de Darina ou pas? Est-ce que c'est ou c'est privé?
Oh non, non, c'est tout à fait ouvert. Je travaille dans le secteur des ressources humaines et je suis responsable d'une équipe d'une dizaine de personnes. Donc,
T'es RH?
Pas RH, mais je travaille dans le recrutement, ouais.
Ok, lourd. Ok, ok.
Voilà. D'ailleurs, on recrute si jamais ça intéresse.
À quel poste? Ah, c'est... Mais dis-nous tout, mais c'est le moment.
Bah, on recrute des stagiaires. Donc, je travaille chez Welcome to the Jungle.
Ok, je connais. C'est un site de recrutement, Welcome to the Jungle.
Mais oui, c'est ce que je t'ai dit. Et du coup, je recrute des personnes en stage, une personne en stage dans mon équipe pour créer les pages des entreprises.
Ok, top. Voilà. Bah, le message est lancé. Si jamais vous êtes intéressé, vous envoyez un message à Mon Paris FM et nous, on transmet à Darina avec plaisir. Autre personne qui m'accompagne, un autre troubadour, il est là, un ancien, il fait partie des fondateurs de cette émission avec Coco et Loïc. C'est Jason. Comment ça va, Jay?
Bah écoute, ça va.
Ça va, toi aussi, t'as passé une belle semaine?
Ouais, belle semaine, beaucoup de pluie, ouais, c'est vrai, mais, non, sinon, belle semaine, c'était cool.
Qu'est-ce que t'as fait?
Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai travaillé et...
Tu travailles dans quoi?
Moi, je travaille en tant que régisseur au centre Eugène Oudinet.
Okay,
je sais pas si tu connais.
Lourd, ouais, c'est en centre Paris Anime, non?
C'est ça, c'est complètement ça.
C'est sympa. Et c'est quoi le taf d'un régisseur?
T'as décidé de...
Non, mais c'est important de...
D'un régisseur, ça, bah, c'est, écoute, c'est celui qui est dans l'ombre, qui est derrière, qui fait en sorte que tout se passe bien au niveau des micros, des réglages, que la diffusion soit au top, et puis le confort de tout à chacun.
Ok, et ça fait longtemps que tu fais ça?
Ça commence à faire un petit moment, ouais. Depuis 2018.
Bah c'est top, bah on est content en tout cas que tu nous en aies dit un peu plus sur toi, parce que c'est vrai qu'on n'en sait pas finalement tant que ça.
Bah, ça fait quand même un moment que
oui,
je parle. Hein.
Mais on n'en sait pas tant que ça, un peu mystérieux.
Après, vous n'allez pas trop en savoir non plus, j'aime bien garder...
Petite part de
c'est
mystère.
C'est vrai que Jason est très mystérieux, ça fait je crois 5-6 piges j'y travaille là. Chaque année t'apprends un truc nouveau, mais vraiment, mais petit à petit, tu vois.
C'est pour garder un peu de mystère, c'est
exactement.
Ça.
Exactement.
Et là, la voix qui est venue d'ailleurs, je ne sais où, c'est Alborz aussi, qui est avec nous autour de la table, à l'heure en plus, Alborz.
Comment ça va, la famille?
Comment
c'est
tu
quoi,
vas,
Alborz? Il y a eu une pandémie ou quoi? Ça dit quoi, là?
Ouais,
on
là
est que... Qu'est-ce qui se passe?
On en a perdu sous la pluie.
Aïe, aïe, aïe.
Mais tu sais qu'il y a des stations de métro qui sont fermées à cause d'inondations.
Ah ouais, mais j'avais vu sur la ligne 14, je crois qu'il y avait, je sais plus c'était quoi.
Ouais. Merci pour le petit point bison filté.
Il doit y avoir Châtelet.
Bienvenue
non,
à Paris.
Châtelet, non, c'est le bas. Non.
Mais
non,
tu regarderas les rails, c'est souvent inondé.
Cosette, c'est quand la dernière fois que t'as pris le métro?
Oh, bonne question.
Wow.
Combien coûtait le ticket?
Wow.
En France,
c'était la carte orange. C'était la carte orange.
Bah, Alborz, comment ça va?
Vous êtes des enfoirés.
Est-ce que tu sautais par-dessus les barrières? Je suis sûre
ça
que
ça m'arrivait
oui.
Une
ouais,
fois.
J'en étais sûre. T'es vraiment le style
ouais, mais
à
là,
sauter.
J'étais jeune. Je vais avoir dans les.
Je crois que les gens s'en foutent de comment tu vas le bronzer.
26 ans. J'ai laissé un pantalon.
Je crois que ça ne les intéresse pas.
Je crois que
Même moi, les sauts de barrière de Cosette m'intéressent plus sur moi. Comment je... C'est au final comment je vais, les amis, vous me connaissez, hein, ça va pas très fort, mais on est là. Ça me touche, mais je reste debout.
T'as passé une bonne semaine ?
Écoute, j'ai passé une bonne semaine. Ce que je dis chaque semaine, si on fait abstraction de l'actualité internationale. Mais sinon, Dieu merci, ça va. Hein. Après, je me lève chaque matin, je vois les stories d'Abou. C'est, aujourd'hui, c'est la story d'un homme heureux. Et ça nous permet aussi de relativiser, de se rendre compte que malgré tout, on est quand même des sacrés privilégiés.
C'est vrai, on a de la chance contrairement à d'autres. Donc, on en profite et on va en profiter durant encore les 1h20 d'émission qui nous reste. Vous le savez, hein, je vous ai demandé à chacun d'entre vous de préparer son fait marquant de la semaine. Mais juste avant que chacun me déroule son fait marquant de la semaine, on va dérouler le sommaire pour ceux qui nous écoutent, pour que ceux qui nous écoutent, pardon, sachent où on va. Alors, fait marquant de la semaine en une minute pour chacun d'entre vous. Ensuite, on ira sur la chronique de Coco. Aujourd'hui, on parle de quoi, Coco, dans ta chronique ?
Des blabla.
Des blabla, des blablabla. Débat de la semaine, BFM TV prise à partie par Rima Hassan pour ses traitements du conflit au Moyen-Orient. De manière générale, faites-vous encore confiance aux médias ? Et si ce n'est pas le cas, comment vous informez-vous ? 280 000 signatures pour une pétition demandant la fin des horaires 8h-18h à l'école et l'instauration du 8h-13h. La ministre de l'Éducation nationale s'empare du sujet. Serait-ce une bonne idée ? Et on finit avec le jeu de la semaine. Qu'est-ce que tu nous as contacté, Jason ? Contacté, pas du tout.
Bah, ça sera un jeu des anecdotes revisitées.
Jay fait toujours les mêmes jeux, il les revisite.
Ah, bah, bah, les valeurs sûres, quand on a un retour, en tout cas des auditeurs qui nous disent qu'ils adorent ça, qu'ils kiffent, bah, et... bah on recommence.
T'as raison, mais avant qu'on arrive à tout ça, le fait marquant de la semaine.
Les faits marquants de la semaine.
On commence, tant que t'as la parole, Jason, on va te la laisser. Hein. C'est quoi ton fait marquant de la semaine à toi, Jay ?
Le fait marquant de la semaine ? Bah écoute, moi, il n'est pas encore arrivé, mais bon, vu que ça va se passer cette semaine, là, ce week-end, ça reste un peu... voilà. Non ? C'est bon, j'ai le droit ?
C'est bon, ouais. Tu peux.
Ah, c'est cool, merci.
De toute façon, si on te dit non, t'as autre chose ou
pas ? C'est un peu antidaté, non, mais
voilà.
T'as le droit.
Non, mais voilà, c'est sympa, merci. bah écoutez, je pars en week-end, du coup, je vais à Amsterdam. Voilà, il y a un beau festival de musique qui s'appelle l'ADE, et du coup c'est un festival orienté musique électronique, hein, mais tout genre. Il y a du jazz aussi, et en fait dans toute la ville, pendant une semaine, t'as tous les clubs d'ouvert, et t'as des soirées non-stop pendant une semaine, quoi. Et moi j'y vais demain, et du coup, dès demain, je fais vendredi, samedi. Et dimanche.
On va te récupérer dans un état.
Non, toujours avec modération, évidemment.
Ah, ça y est, on a appris une info en plus sur Jason ce soir.
Non, ça c'était...
Il est un peu moins mystérieux que...
Non, quand il parle de modération, parce que c'est vrai, Amsterdam tout de suite. Et ça m'étonne que personne n'ait sauté pieds joints dans le cliché, mais on parle bien de modération musicale, de sound system.
Non, je parlais d'alcool.
Ah, ok. Amsterdam, ça peut être aussi...
Fumette. Bah, figure-toi que je ne fume pas.
Je pensais même pas à ça, mais puisque t'en parles...
Ah, le quartier rouge, je veux dire.
Ah, de tout. Bah, tu vois, en fait, c'est vraiment la ville du vice, en fait.
T'es bien informé.
Je plaisante, évidemment. Mais voilà mon fait marquant de la semaine. Qui va me marquer, j'espère. Et puis, je vous en reparlerai, du coup, qui sait.
Ouais, mardi, mercredi ou dans 15 jours.
Ouais, voilà. Ça vous a intéressé au moins? Parce que j'ai l'impression que
c'est
pas du tout...
Si, c'est très, très intéressant.
Si, moi, je voulais te demander, il y avait qui en tête d'affiche là de ce festoche?
Écoute, il y en a tellement que je saurais pas te dire, mais bon, pour ceux qui connaissent un petit peu, le samedi soir, vous n'allez pas connaître, mais il y a Amélie Lenz, c'est une artiste.
Et si on connaissait, pourquoi vous n'allez pas connaître? Peut-être on connaît.
Peut-être que les auditrices et auditeurs qui nous écoutent connaissent aussi.
Excusez-moi, désolé.
Un peu méprisant.
C'était pas une agression.
Tu te trouves un peu méprisant depuis quelques temps, Jason.
Je suis vraiment désolé.
C'est un festival alternatif, vous pouvez pas savoir. C'est que les gens du sound system.
Je pense pas parler comme ça. Vraiment le babos de première, quoi. Mais Amélie Lenz, Nico Moreno, pour pas les citer, c'est ce que je viens de faire. Mais voilà.
Ok, bah top. Merci pour ce fait marquant de la semaine.
Je vous en prie.
Et on te souhaite un très bon week-end. Week-end de 3 jours, visiblement. C'est ton dernier jour de travail aujourd'hui, c'est bien ça?
Cette semaine,
t'as, hein, t'as commencé mardi, tu finis jeudi, c'est parfait. tout ça au frais du contribuable.
Le jet, tu vas comment? Amsterdam, en Thalys, en avion, en voiture?
J'y vais en train.
En train, c'est bien le train. Franchement,
ouais,
je sais pas si t'as train. Déjà fait... Gare du Nord Amsterdam, mais c'est
exactement
cool.
Non, c'est la première fois que je vais là-bas.
Tu vas voir, c'est trop cool. Il y a un petit arrêt à Bruxelles.
C'est un Thalys du coup. Bah ouais, du coup moi je prends le Thalys pour aller en Belgique souvent, mais du coup c'est pas Eurostar, c'est Thalys aussi.
Ouais, non, Eurostar c'est que Londres.
OK, bah écoute, bah let's go Thalys.
Donc soit c'est un direct, soit il fait Lille Bruxelles et Amsterdam.
Ouais, non, là c'est un direct, mais c'est assez confort en plus, hein, les Thalys. Bon, on va pas parler de Thalys, mais voilà.
Merci,
bon.
Bison futé du train.
Bah, tant qu'elle a la parole, on va lui la laisser également. C'est quoi ton fait marquant de la semaine, Darina?
Alors, moi, ma découverte de la semaine, ça concerne le street art.
Ok.
Est-ce que vous connaissez les Invaders?
Bien sûr.
Les petits extraterrestres. Absolument. En mosaïque.
Oui.
Non.
Eh, si Coco connaît, t'es obligé de connaître.
Non.
Si, tu vois les petits au-dessus des bâtiments, au-dessus des rues, des plaques de rues parisiennes, il y a des petits trucs en mosaïque, là, des petits martiens.
Ok.
Lève la tête quand tu marches dans la rue, je te jure, tu vas voir. Il y en a un au-dessus de Marcel Cerdan.
Ouais.
Exact.
Ouais,
attention. Moi, je vois les dessins.
Mais il y a une sorte de chasse, il me semble. Je vais pas pourrir. Mais vas-y, continue.
Mais ça fait longtemps que ça a débuté, ce truc.
Oui. Oui, oui, tout à fait. Eh bien, en fait, moi, je vous parle de ces Invaders parce que j'ai deux potes à moi, Fiona et Antoine, qui sont tellement passionnés des Invaders qu'ils ont décidé d'en créer une visite guidée. Donc, en fait, ils ont créé à Paris, dans le quartier du Marais, ils proposent une balade de 2 heures entre Saint-Paul et Beaubourg.
Ah ouais, 2 heures ?
Ouais, bah, ça reste dans un petit périmètre, mais il y en a voilà, comme dit Coco, il y en a vraiment beaucoup, ces petites bêtes qui sont collées au mur. Et du coup, comme tu disais, il y a une application qui existe qui s'appelle Space Invaders. Et le but, c'est de les scanner, les photographier, voilà, slash les scanner. Et en fait, ça te rapporte des points. Donc voilà. Et leur visite guidée, ben, te raconte à la fois l'histoire de Paris et des petites anecdotes sur la culture street art. Du coup, bah, je trouve que c'est une visite guidée qui n'est pas du tout pareil que les autres. C'est hyper original. On chasse, on gagne des points, on rencontre des nouvelles personnes. Et puis, une fois que la visite est terminée, on va boire un verre avec les gens. Donc voilà, la prochaine visite guidée sera en novembre. Donc n'hésitez pas à y aller pour aller chasser les Space Invaders.
Bah, merci pour ce fait marquant de la semaine, Darina.
Ah oui, là, sur Instagram, je devais donner aussi le nom du compte Instagram. Si,
t'es payé pour la pub ?
Non, du tout, ce sont des...
On rappelle que les placements de produits sont interdits.
Non, du tout, ce sont des potes à moi entrepreneurs. Donc, j'ai trouvé que c'était super intéressant, cette visite. C'est balade.mosaïque sur Insta.
C'est noté balade.mosaïque à ton tour. Alborz, c'est quoi ton fait marquant de la semaine ?
Alors, moi, j'ai deux faits marquants. Le premier, c'était un fait marquant d'il y a 2 semaines, c'est la venue de Darina dans Sadi, quoi, qui a ramené un vent de fraîcheur, une gaieté, avec son petit carnet, son écriture, ses chroniques. Vraiment, elle est cette lumière qu'elle pense être. Voilà, gros cœur sur toi et bienvenue dans cette grande famille qui est Sadi, quoi. Et mon fait marquant, c'est, vous connaissez l'entrée traditionnelle des joueurs de l'équipe de France à chaque sélection à Clairefontaine, habillés de leurs plus beaux habits, c'est souvent la Fashion Week. Et il y a une petite semaine de ça, dernier rassemblement, là ils ont vraiment envoyé du lourd, nos joueurs de l'équipe de France, et les aigris un peu, les anciens du football, pour pas les nommer, des Jérôme Roten, des Jean-Michel Larquet, se sont plaints un peu du fait que oh, c'est pas sérieux, c'est quoi ces accoutrements, etc. Moi je dis à mes gars de l'équipe de France, continuez à mettre vos plus beaux habits, que Jules Koundé continue à mettre des robes. De toute façon, c'est le seul qui a appelé à faire barrage explicitement au RN, donc il peut faire littéralement ce qu'il veut. Et voilà, gros big up à l'équipe de France. Mais commencez à gagner les matchs aussi de la bonne manière.
Non, mais ils étaient bien habillés en plus.
Exactement.
Il y en avait pour tous les goûts.
Ibu Konaté qui arrivait en full Kenzo... en mode Kanye West, on voyait pas son visage. Moi, j'aime bien, moi. Abou, toi qui es dans le sport, t'en penses quoi ? C'est un faux débat, non ?
Ouais, moi, il m'a saoulé carrément le débat quand je voyais certaines réactions. En fait, c'est des débats auxquels tu veux pas prendre part au début. Tu te dis que c'est des trucs inutiles. Ouais. Mais quand tu vois les réactions exacerbées, comme tu le disais, des vieux aigris.
Je te jure.
Quand les gars, ils s'habillent comme ils veulent, tu veux venir en string, viens en string tant que t'es performant sur le terrain. Après, j'ai envie de te dire.
Exactement.
Non, moi, je trouvais que c'était pour une fois qu'ils étaient pas habillés, tous. Pareil, avec leur tenue, de leur jogging pour aller s'entraîner tout de suite. Là, c'était un défilé de mode, de mecs qui sont bien gaulés, en principe.
En principe.
Et en parlant de beaux gosses bien habillés, on parle de la tenue d'Abou ou pas ?
Non, on parle pas.
Ouais.
Franchement, il est,
il
n'y
a pas de cravate
classe
aujourd'hui, là, en full white.
Il est en full
en
blanc,
plus,
j'ai
dit tout à l'heure, il sortait avec son parapluie. Je lui ai dit, toi, un jour de pluie comme ça, t'as pas peur de t'habiller
pas
en blanc ?
Pas une tache.
Exactement, pas une tache.
Pour l'instant,
vous voyez ça blanc.
Le pantalon beige, le t-shirt beige, la petite, petite surchemise, la casquette.
T'as vu la transition, on parlait de mecs bien gaulés et tout de suite on passe à Abou comme ça. tu kiffes.
Ça
hein.
m'a fait penser. Non,
il est refait là, regardez-le, il sourit fort. Là.
Il rougit même.
J'ai une émission à tenir, ça m'intimide tout ça. Mais merci beaucoup, Darina. Toi aussi, t'es très très bien habillée. Avec une très très belle veste, c'est
une, des fleurs. Une belle gourde aussi.
Voilà, un beau téléphone, bah, un beau stylo.
Assorti au chouchou.
C'est vrai.
Ah, ça c'est que des femmes qui peuvent savoir.
Fait marquant de la semaine, Cosette.
Alors moi, c'est plutôt un coup de colère mitigé. J'ai vu une pub sur une chaîne quelconque pour une émission qui va retracer la vie de ce que j'appelle la médiocrité française. Donc ça s'appelle Culte, si vous avez en entendu parler. Donc c'est l'histoire de Love Story.
Ah oui, ok.
Donc en 6 épisodes, il y en a qui vont, ça commence donc le 18, donc demain, et ça raconte les coulisses de l'arrivée de la télé-réalité sur M6 en 2001. Mais franchement, je vois pas l'intérêt de ce genre d'émission. Déjà, ça nous crétinise les jeunes. T'en as plus un seul qui est capable de te raconter l'histoire normale, l'histoire de ce qui s'est passé. Mais par contre, ils sont capables de te parler des coucheries dans le Love Story, les trucs comme ça. Donc c'est...
Après, si je peux me permettre, alors je suis d'accord avec toi sur le fond que ça reste des émissions abrutissantes. Mais Love Story reste dans l'histoire la première télé-réalité française. Et moi, je m'en souviens très bien. C'était en 2002.
2001,
j'étais petit, 2001. On était en primaire. Tout le monde regardait ça. Les parents regardaient ça. En fait, c'est un ovni qui est débarqué dans le PAF et qui, derrière, a conduit à plein de mots MAUX sur nos jeunes, sur la société. Aujourd'hui, j'exècre toutes ces émissions-là. Mais dans l'histoire, ça reste la première télé-réalité avec Loana, Jean-Édouard, Stevie, la piscine, exactement. Maintenant, le fait d'en faire peut-être un biopic, retracer le truc, j'en sais rien. Mais ça reste dans l'histoire de la télé.
Mais là, c'est quand même, il y a 6 épisodes, mais c'est la saison 1. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous coller en saison 2 ? Ça s'appelle pas... Validé. Ça n'a rien à voir.
T'es rigolote, Cosette.
Dans l'humour, beaucoup dans l'humour.
Moi, je me fais l'avocat du diable, mais j'adore la télé-réalité. Je suis fan.
Moi, je supporte pas.
Il faut des avis controversés.
Ah, il faut.
Ah, j'adore.
Non, mais surtout que les gens comme ça, mis dans un endroit enfermé en microcosme, c'était au départ une émission scientifique. Pas en France.
Oui, c'est une expérience humaine.
Mais c'est une expérience humaine où il y avait...
Au début, ils n'avaient pas fait ça en prison.
Ça a été fait dans un endroit où il y avait des gens qui se connaissaient en agronomie, des trucs comme ça, pour voir si des gens étaient capables de... Enfin, c'était beaucoup scientifique, savoir s'ils étaient capables de recréer un...
Ah, d'être autosuffisant, tu veux dire ?
Ouais, et puis pouvoir s'entendre suivant les milieux. Donc, il y avait autant de garçons que de filles.
Ouais.
Évidemment, ça a posé des problèmes.
Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'après, tu vois qui va être un peu leader, qui va être un peu suiveur, qui... Ouais.
Et donc, nous, on a eu ce truc-là.
Alors, il faut quand même rappeler, je me permets aussi quand même, hein, parce que tout de suite, quand on dit télé-réalité, on pense aux anges, Secret Story, Love Story, mais on est d'accord que Koh-Lanta, Top Chef, c'est de la télé-réalité aussi. Hein.
Oui, je suis d'accord.
Donc là, souvent, on parle de... Là, dans le documentaire, tu parles de Love Story, mais... Je pense qu'il faut savoir dissocier quand même.
T'as raison de nuancer.
Tu vois, parce que moi, j'avoue que j'ai regardé évidemment moi à l'époque Secret Story, voilà certains.
J'ai même pas regardé.
Bah moi, j'ai regardé. Bah comment tu peux te donner un avis dessus alors que t'as pas regardé ?
Oh.
Bah parce que je vois ce que ça a donné.
J'essaie de comprendre, pardon.
Je vois ce que ça a pu donner. J'ai pas regardé ça, mais quand tu vois, des fois, tu zappes, tu tombes sur des trucs, des Marseillais ou des trucs comme ça, que t'entends des réflexions, mais. Ou même, ça fait partie de nos farfelus, quand tu vois les questions qui étaient posées et des gens qui ne sont pas capables de répondre à des questions que tu apprends en sixième, je trouve ça scandaleux.
Oui, non, c'est
triste, c'est des gens qui passent à la télé, des jeunes qui vont les suivre et qui vont prendre ça. Bah, c'est pas la peine que je travaille parce que on peut passer à la télé, on peut gagner des sous comme ça.
C'est
comme,
le début des influenceurs d'ailleurs.
Comme l'âme qui racontait qu'elle avait quitté l'école, je sais pas à quel âge, et qui est une chanteuse.
Et t'as jamais regardé, c'est-à-dire un Koh-Lanta ou un le meilleur pâtissier ou
Koh-Lanta,
un top chef?
Non, pâtissier, ouais.
Ok. La t'as jamais regardé, ça m'endort. Tu regardais pas Star Academy quand il y avait la sœur de Sarah dedans?
Si, j'ai regardé, puis dès qu'elle a été éjectée, j'ai arrêté.
Tu trouves bien ton intérêt. Est-ce que mon Paris FM, des fois, c'est pas de la télé-réalité aussi?
La radio-réalité.
La radio-réalité.
Mon Paris FM, c'est que de la réalité. Bon, bah merci pour ces faits marquants de la semaine. On va finir avec le mien.
J'ai aussi c'est vrai. Voilà.
Il dure combien, un quart d'heure?
Non,
mauvaise.
Pourtant, je suis le seul qui te défend depuis le début sur ce plateau.
Non, il a dit qu'il fallait pas l'interrompre.
Non, c'est un fait marquant.
Non, là, c'est pas... c'est pas...
tu vois, à cause de Jason, elle a tout mélangé. Alors moi, mon fait marquant, c'est un film que je suis allé voir la semaine dernière au cinéma, L'histoire de Souleymane, c'est l'aventure d'un livreur Uber sans papier pris au filet de notre système social insensible à la vie des gens, développant un esclavage et une aliénation moderne, transformant les personnes en agents de lui-même. Souleymane est titulaire d'un récépissé de demande de carte de séjour, l'empêchant de travailler, et il doit vivre toute une vie en deux jours précédant son entretien à l'OPFRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue d'une régularisation. Ni la caméra ni nous-mêmes ne quittons une seconde des yeux le héros. Avis personnel, excellent film qui montre plusieurs réalités, celle des comptes Uber loués et surtaxés à des migrants qui n'ont pas d'autre choix que d'accepter ce racket, celle des hommes qui se tuent à la tâche et celle de ceux qui cherchent un endroit où dormir chaque nuit en passant par l'aide sociale. Un film émouvant, touchant, poignant qui raconte la réalité de ceux qui quittent l'Afrique pour l'Europe, loin des clichés véhiculés par les médias ou les politiques. Il montre aussi la réalité des hommes qui ont dû abandonner, sacrifier, jusqu'à subir des tortures ou la réduction en esclavage en chemin pour finir avec le mépris social et de classe une fois arrivé ici. Un super film, peut-être pas le film de l'année, hein, c'est ce que je disais quand je le débriefais, mais un très bon film, juste et nécessaire. Tout ça incarné par Abou Sangaré. Abou Sangaré, c'est l'acteur principal qui, comme son personnage, est sans papier. Il travaillait dans un garage de la banlieue d'Amiens, comme la majeure partie de la distribution. Il découvre le cinéma avec ce rôle. Si on écoutait les fachos de tout poil, ce film n'aurait pas dû voir le jour. Abou Sangaré est sous OQTF, mais a réussi quand même à être récompensé au Festival de Cannes par un prix, celui de meilleur acteur. Dans la catégorie, un certain regard. Donc voilà, excellent film, L'histoire de Souleymane, que je vous invite à aller voir. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que depuis, Bruno Retailleau a régularisé la situation de Abou Sangaré, qui maintenant se retrouve avec un titre de séjour et peut poursuivre sa vie en France. Donc voilà, excellent film, disponible dans toutes les salles de France.
Bruno Retailleau a régularisé quelqu'un? De quoi on parle là?
Oh, tu sais, c'est par intérêt, Bruno, il sait ce qu'il fait. Mais voilà, excellent film que je vous invite à aller voir. On va passer maintenant à Coco, on va te redonner le micro, bam, directement, tout de suite. C'est quoi aujourd'hui, les blablas, c'est ça? Les blablas.
Les blablas.
Blabla.
Hé hé, les ragots de la radio.
Et voilà, disparition de Lina. Le corps de la jeune Lina, 15 ans, a été retrouvé dans la Nièvre, indique le parquet mercredi, donc hier. Il était immergé dans un cours d'eau situé en contrebas d'un talus à près de 500 km du lieu de sa disparition d'il y a un an, 23 septembre 2023. Donc, le kidnappeur, apparemment, s'est suicidé il y a un mois de ça. Mais on ne sait pas trop ce qu'il en est. Donc, affaire à suivre.
Je suis vraiment désolé. J'ai dit « ah ouais » au début, parce que j'étais totalement pas dans le truc. Je croyais que tu parlais de l'INA, tu sais, l'Institut...
Oui, pareil. INA.
L'INA, quoi.
L'INA qui était d'ailleurs rue de Pathé, et qui est maintenant...
Qui est devenue Lofi, d'ailleurs. C'est fou, hein, cette histoire. Hein.
Ouais. Bla, bla, bla. Alors, 4 morts dans l'incendie d'une Tesla. La voiture était un modèle ultra puissant, Tesla Model S Plaid. Attendez, il me faut mes lunettes.
On t'en prie.
Donc, une Tesla en stationnement à Niort a également pris feu. Bon, 4 morts, le conducteur de 65 ans et 3 jeunes, 16, 21 et 26 ans. Les 3 jeunes travaillaient au restaurant L'Argentière à Mel, dans la Nièvre. La puissance de la voiture, donc elle fait 1020 chevaux. La vitesse maxi, c'est 322 km/h. Je ne vois pas en France pourquoi on a des voitures qui font cette vitesse-là, alors que c'est souvent limité à 200 maxi, je crois.
Bah, 50 sur le périph', du coup.
Ouais, 50 sur le périph'.
Coucou, Anne.
Cette Tesla est capable d'abattre le 0 à 100 km/h en 2,1 secondes.
Ah oui.
Ah ouais, tu te retrouves, tu sais, comme dans les avions, là, t'as la bouche ouverte.
Hein, t'es coulé. Hein.
T'as la mâchoire qui a
le
l'air.
Le 0 à 100 en une seconde, il est dur. Hein.
Mais oui, mais pourquoi on vend des
En fait, je me suis renseigné, en vrai, c'est en une seconde neuf. Comme si c'était deux secondes. Ils ont joué sur ce vice-là. Mmh. Mais oui, c'est ouf.
Attends, les fausses anecdotes, c'est pas tout de suite.
Elle est en forme, Darine, aujourd'hui. Hein.
Elle est en forme. De toute façon, quand quelqu'un se fait rire comme ça, c'est que souvent, elle est en forme.
Donc voilà. La justice, alors ça, c'en est une, c'est complètement comme quoi ils ont vraiment du temps à perdre. La justice demande à la ville de Nantes de retirer son drapeau breton. Il avait été hissé il y a plus de 4 ans, accompagné d'un air de Bombarde et de Bignou. Depuis le drapeau breton. Bignou. Depuis le bateau. Ah oui, c'est vrai, tu connais bien, toi, le breton. Depuis le drapeau breton installé dans la cour d'honneur de l'hôtel de ville de Nantes, avait pris sa place dans le paysage. Ce mercredi 15 octobre, il est ordonné à la mairie de retirer ce drapeau sous 15 jours suite à un jugement du tribunal administratif de Nantes. La justice a invoqué la plainte qui stipule « respect du principe de neutralité du service public ». Le plaignant a obtenu gain de cause, mais pas sur cette notion de droit. La juridiction reproche à la mairie de Nantes de ne pas avoir été consultée, de ne pas avoir consulté son conseil municipal en amont. Donc, initiative que du maire sans délibération du conseil municipal.
Mais du coup, c'est la Bretagne ou pas Nantes ?
Oui.
Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non.
Mais normalement,
oui,
non,
c'est la Loire Atlantique, mais ça fait partie de la Bretagne.
En tout cas, tu demandes aux Bretons si pour eux Nantes c'est la Bretagne, ils te diront non.
Oui, mais administrativement, en plus maintenant qu'avec les régions qui ont été.
Ouais, c'est bref. Comme le Mont-Saint-Michel, enfin bref.
C'est breton ?
Bah pour moi, oui.
Bah ah, oui, il est breton.
Pour les autres, non.
C'est qui les autres ?
T'es breton, Jason ?
Oui, je suis breton.
Mais voilà, c'est ça, ça rentre dans la catégorie. Tous les jours, on apprend un truc nouveau sur Jason.
Ça fait longtemps qu'on sait qu'il est breton.
Moi, je le sais, breton.
Mais moi, je tiens une petite liste, du coup, avec toutes les infos que j'apprends de Jason. Ouais. Je vais la ressortir un jour. Tout ce que j'ai appris sur Jason.
Attention aux listes.
Voilà, c'est fini.
Bah merci.
J'ai dit que j'en avais pas beaucoup.
Bah c'est 3, c'est amplement.
C'est bien.
C'est amplement suffisant.
Elle a fait que 4 morts aujourd'hui, Cosette. Bonne stat.
C'est pas gentil.
Ouais, non, mais comme quoi les voitures électriques, ça prend beaucoup feu. Comme les bus sur Paris, nous dans le 13e, je crois qu'il y en a déjà 2 qui ont pris feu.
Et il y a une Tesla aussi qui a explosé dans le 13e il y a 2 ans. Qui a fait
oui, exactement. En même temps que.
Mais c'est dû à quoi ? C'est vraiment dû à la vitesse ?
Non, c'est les batteries.
C'est la voiture qui est devenue folle. Hein.
Autodestruction, ouais,
de toute façon, maintenant tu peux faire sauter des beepers à distance, donc avec des Tesla, j'imagine pas ce que tu peux faire. Hein.
On en discutera une prochaine fois, messieurs. On va pour l'instant marquer une courte pause et on se retrouve dans un instant pour parler pour les débats de la semaine, tout simplement.
Ça dit quoi ? Ça dit quoi ? Du divertissement au débat, des rires aux larmes, l'émission Quoi de neuf de la semaine. Prenez une dose de vie les jeudis entre 19h et 20h30.
C'est parti. On est de retour en direct.
Regardez, on est déjà de retour.
D'accord.
Un peu préparé les événements. Albor, vous avez besoin d'un peu plus de temps.
On s'adapte.
Un peu plus de temps que ça, mais de retour dans ça dit quoi ? Pour parler, pour faire les débats de la semaine, hein, on veut le dire, on est une émission de débat, une émission où on discute. Et le premier débat, il concerne la confiance des Français envers les médias. Selon le baromètre de la Croix publié en novembre 2023 dernier, ils sont 57% à estimer qu'il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité. C'est 3 points de plus par rapport à la précédente édition du baromètre. Seulement 34% font pleinement confiance aux médias. Près de 2/3 des Français considèrent d'ailleurs que les journalistes ne sont pas totalement indépendants. Pour 59% d'entre eux, ils sont soumis aux partis politiques et au pouvoir. Pour 56%, ils sont contraints par les pressions financières. Si on en parle, c'est parce que la dernière fois, mardi dernier, Rima Hassan, la députée européenne, était l'invitée de BFM TV. Et elle a préféré dénoncer les félicitations du porte-parole de l'armée israélienne à l'égard de la chaîne d'information. On écoute.
Vous aurez tôt ou tard des comptes à rendre en tant que média. Je réponds maintenant à votre question.
Rima Hassan, pardon. Vous pouvez pas commencer par nous attaquer. On vous invite poliment à répondre à des questions.
Sur votre chaîne.
Et vous mettez en doute la ligne éditoriale de BFM
poliment.
TV.
Je suis libre de mes propos.
Je suis libre aussi de dire que
vous êtes félicité par un porte-parole de l'armée, d'une armée. C'est inédit. Il n'y a pas de médias qui sont félicités par un porte-parole d'une armée qui, par ailleurs,
est pointé du doigt par toute la communauté internationale.
Admettez que c'est inédit.
Vous mettez en cause le travail d'une rédaction. C'est inacceptable.
Parenthèse fermée, moi je
ne fais pas de problème. Non, 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 non,
non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
non, non, non, non, non, non, non, non, non,
non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
non, non, non, non, non, non, non, non, non,
non, non, non, non,
non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, de façon neutre. Quand vous avez une partie au conflit qui vous félicite, c'est comme si vous aviez le Hamas demain qui vous félicitait. C'est très problématique, admettez-le. Donc là, vous avez une armée qui viole le droit international sur beaucoup de choses. C'est la communauté internationale, c'est les juridictions internationales qui le pointent.
Non,
c'est
pas écoutez, non, pas invité
c'est très
vous
problématique
BFM
que votre
TV.
Chaîne
Merci.
Soit
non,
félicitée.
Écoutez, stop, on va arrêter l'interview, désolé.
On va vous féliciter pour ça, on vous remercie. Merci
on va beaucoup. Vous féliciter pour votre prise de position et des attaques contre BFM TV, désolé. L'interview s'arrête.
C'était très intéressant. Voilà, c'est dommage parce qu'on avait des
Thierry
questions.
Thierry Arnault, faut peut-être avoir une mise au point en ce qui concerne ces attaques de Rima Hassan et qui dit qu'on aura des comptes à rendre.
échange très très tendu entre Rima Hassan et Alain Marchal et Olivier Truchot. Est-ce que certains d'entre vous ont suivi cet événement-là, ce fait-là, et qu'est-ce que vous en avez pensé vous,
moi, non,
de cet échange entre Alborz, Darina?
Moi, j'ai pas suivi non plus. J'avoue, je regarde pas BFM TV.
Je regarde pas non plus BFM,
mais c'est vrai que la séquence a pas mal tourné sur les réseaux sociaux. Rima Hassan, elle est pas agressive hein, dans sa question. Elle leur dit juste que voilà, il y a un porte-parole d'une armée dans une guerre qui vous félicite sur votre traitement médiatique. Effectivement, ça peut interroger. Elle contrebalance en disant c'est comme si le Hamas vous félicitait. Rima Hassan, on peut en penser ce qu'on veut. Ça reste une juriste. Donc elle est très factuelle. À chaque fois, elle ne cesse de rappeler le droit international, les faits. Et là, en l'occurrence, elle rappelait un autre fait, celui du porte-parole de l'armée israélienne qui a félicité BFM pour sa manière de couvrir les événements. Donc effectivement, à ce niveau-là, ça interroge. On voit bien Marchal et Truchot qui sont complètement débordés par le truc. Je pense que ça a dû pas mal siffler aussi dans l'oreillette. Et voilà, ils ont coupé court. Mais ce qui est bien, c'est que Rima, elle est restée droite dans son truc, avec le sourire. Elle leur a pas donné ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire qu'elle n'est pas tombée dans le verbatim, elle n'est pas tombée dans l'agressif, dans l'hystérie. Elle est restée très calme, petit sourire. Ok, pas de souci, voilà, je suis dans mon droit, j'ai le droit de m'exprimer. Donc parfait.
Il y a aussi quelque chose de très intéressant dans le discours qu'elle tient, et c'est pour ça aujourd'hui qu'on en est là à faire ce débat-là. C'est, d'ailleurs, je crois que Coco a prouvé quand on écoutait, c'est quand elle parle du traitement médiatique des affaires par les médias, elle dit « vous devez être neutre quand vous traitez l'information ». Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez tous autour du plateau, avant de rentrer même dans la confiance des médias? Est-ce que pour vous, un média, quel qu'il soit, doit traiter une information de manière neutre? Et est-ce que, finalement, c'est possible de traiter l'information de manière neutre, Coco?
Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. On a eu une discussion là-dessus il y a 2 ans. Moi, je dis qu'un journaliste doit être neutre. Les journaux, il y a certains journaux qui ne sont pas neutres, mais dès lors que tu es à la télé, que tu donnes une information, tu dois être neutre. Tu ne dois pas prendre le parti d'X, Y ou Z. Moi, je me souviens, il y a très longtemps, quand ça a été la mort de Grace Kelly, le journaliste a dit, je vous le dis, tout le monde pleure, tout le monde fait des salamalek à la télé, alors qu'en fin de compte, il y a des millions de gens qui meurent tous les jours et on n'en parle pas d'un seul. Et lui, il a pris la porte parce qu'il disait quelque chose que beaucoup de Français pensaient. C'est pas la peine de faire une demi-heure d'info sur la mort de quelqu'un alors qu'en fin de compte, il y a d'autres infos qui sont plus importantes.
Darina, les médias, ils doivent être neutres?
Ils doivent, pour moi, transmettre de l'information factuelle, mais c'est aussi, pour moi, leur rôle de créer le débat avec des personnes qui ont des opinions tranchées. Pour que les les points de vue différents viennent pas du présentateur, par exemple, ou du journaliste, mais plutôt de ses invités. Donc moi, je vois plutôt le journaliste comme un modérateur.
Jason ?
Bah oui, pour moi, on parle d'un journaliste ou de...
D'un média. Après, un média...
Enfin forcément... oui, moi je le disais à travers le journaliste.
Un média
mais...
représenté à travers le journaliste. Moi, un média, oui, forcément, ça doit être neutre.
Ouais.
Parce que derrière, après, forcément, sinon, s'il prend parti, bah, il oriente forcément et il choisit un peu l'info qu'il va diffuser. Donc pour moi, non, le travail même d'un média, c'est de diffuser toutes les informations. De choisir ce qui diffuse, quoi.
Est-ce que vous avez confiance dans les médias, vous, Alborz, par exemple ?
Confiance, bah, ça dépend envers quel média, parce que c'est vrai que là, on parle de la télé, les chaînes d'information en continu. Il y a plus grand monde qui regarde ça. C'est vrai que nous, on est beaucoup branchés sur Internet. À défaut d'avoir confiance, en tout cas, on fact-checked. Voilà, une information, elle n'est pas traitée de la même manière sur CNews, sur BFM, que sur Libération, que sur l'Humanité. À défaut d'objectivité, moi, je demande juste un peu de justice dans le traitement de l'information. Je pense notamment à cet hôpital qui a été bombardé à Gaza en début de semaine. On a tous vu les images de ce terrible incendie. Seulement 9 secondes dans le journal de France 2, contre 2 minutes sur d'autres sujets qui étaient beaucoup moins importants. Donc c'est le traitement et la manière dont on traite justement cette info.
Et quand on entend que seulement 34% des Français font pleinement confiance aux médias, est-ce que c'est des chiffres qui vous interpellent les uns et les autres ?
Parce que je le pense, il y a des années de ça, il y a eu, pareil, avec Poivre d'Arvor, une information qui était complètement tronquée, qui était fausse, qui a été montée de toutes pièces, où il interviewait un gars qui était sur un bateau, qui venait d'arriver dans un... Alors que la course n'existe... Enfin, ce mec n'existait pas dans la course. Et tout le reportage a été fait, filmé. Donc comment tu peux avoir... vraiment la sensation que ce qu'on te remonte à la télé, c'est vrai ou c'est faux. T'as bien vu le bouquin là que je vous avais passé, où une information, tu vois un monsieur qui a les mains en l'air et qui est en t-shirt, t'as l'impression qu'il vient de gagner une course, et en fin de compte, quand tu vois la grande image, le gars, il a un pistolet dans le dos. Donc si tu veux, l'information, c'est suivant comment on te l'a fait passer, on va te montrer un truc. Et ça va être ciblé de façon à ce que tu la reçoives soit en négatif, soit en positif. Mais on ne te laisse pas, et c'est ce que je reproche aux certains journaux, certaines télés, c'est on t'oriente vers une pensée qui n'est pas forcément celle que tu as, toi, ta pensée normale de tous les jours.
Jason, 34% des Français qui font pleinement confiance aux médias, est-ce que ce chiffre, il t'étonne ? Est-ce que tu le trouves anormalement bas ou pour toi, il est plutôt le reflet de ce que disent les médias ?
Non, non, c'est exactement ce que tu dis là. Hein. C'est le reflet de ce qui nous propose en soi. On doit faire du traitement même d'informations. Et puis, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde, ça. Je pense à une génération où moi, je pense par exemple à ma mère, qui quand elle voit des choses à la télé, souvent, quand ça passe à la télé, c'est vrai, tu vois. Et c'est frustrant de quand tu vois on peut avoir des échanges et puis je lui dis t'as vu ça où à la télé non, forcément du coup non moi ça m'étonne pas du tout que ce chiffre soit aussi bas.
Bon, on va en profiter pour écouter également l'avis des Français sur la question. Ils ont été interrogés sur peut-on faire confiance aux médias, ils répondent à travers ce micro trottoir.
Faites-vous pleinement confiance aux médias que vous consultez?
Pas totalement, j'ai une part de, si je puis dire, réticence. J'essaye de vérifier les sources, en fait, tu vois. Et une fois que j'ai vu que les informations sont correctes, sont exactes, là, il n'y a pas de souci. J'utilise sur les réseaux souvent brut. Je trouve que des fois, je vois des trucs super intéressants. Ça va de tout. Hein. Ça peut parler d'un agriculteur qui a du mal à faire ses fins de mois. Ça peut parler d'un reportage sur la Guadeloupe, sur peu importe. Et ça, j'aime beaucoup.
Alors, je méfie un peu de tout ce qui est réseaux sociaux parce qu'on entend tout et son contraire. Et je fais plus confiance à effectivement certains grands médias et certains grands journaux qui ont pignon sur rue, mais avec des éditions numériques. J'essaie de regarder qui est ce média et éventuellement quelle est la ligne éditoriale qu'ils peuvent avoir. Ça me permet de mieux comprendre parfois s'ils peuvent insister sur certains médias ou certaines choses et peut-être être un peu plus pas méfiant, mais vérifier plus certaines informations en fonction de l'orientation du média en question. Parce que parfois, il y a des lignes éditoriales qui ne sont pas les mêmes selon les opinions de certains journalistes ou pas.
J'essaie d'avoir vraiment un regard critique sur ce qu'on me propose. J'ai moi-même fait des vidéos qui allaient dans le sens de l'actualité, car je trouvais une grosse différence en fait entre ce que je constatais de mes yeux, notamment en Guadeloupe, et ce qui était proposé sur les chaînes. Donc j'ai moi-même filmé et participé à divulguer des informations d'actualité pour divulguer une forme de vérité que j'avais sous mes yeux et qui n'apparaissait pas du tout sur les médias que l'on retrouve.
Alors moins. Autrefois, quand j'avais 20 ans, 25 ans, je croyais vraiment ce que disaient les journaux télévisés nationaux ou ce que disait Le Monde, je le prenais pour argent comptant. Aujourd'hui, j'ai un esprit critique. Je sais que les journaux, les grandes chaînes de télévision, en fait, promeuvent une certaine vision des choses, un certain mode de pensée. Et moi, je veux être critique, je veux être voltairien en permanence. Donc, je veux pas prendre pour argent comptant ce qu'on me dit, ce qui est lié à des modes, à des évolutions. Et comme tout ce qui est la mode, ça se démode. Donc, c'est une vision un peu, finalement, de l'instant, mais qui ne durera pas sur la durée. Donc, je veux absolument être un citoyen averti. Et donc, j'ai un esprit critique. Et donc, je parlais du Monde tout à l'heure, mais donc, j'ai appris à distinguer la qualité de l'information brute de certaines interprétations. Donc ça, c'est un exercice que je fais beaucoup aujourd'hui, parce que je pense qu'effectivement, les médias sont plus pollués aujourd'hui par les phénomènes de mode qu'ils pouvaient l'être autrefois. Enfin, quand je dis autrefois, ça veut dire il y a 20 ou 30 ans. Je pense qu'il y a eu une belle période où il y avait une certaine qualité de l'information dans les années 70-80, qu'on a un peu perdu, on est en train de revenir avec une différence, l'époque a changé, mais un peu quand on écoute les chroniqueurs d'après la guerre avec une vision très partielle et partiale, aujourd'hui on a l'impression qu'on revient un peu dans un autre genre vers cette vision-là.
Quand j'entends des choses qui me surprennent, j'essaie d'aller creuser un peu plus loin, de faire d'autres recherches sur internet entre autres, ou de discuter avec mon entourage pour essayer d'avoir une vision des choses un peu moins manichéenne.
Oui et non, parce que comme je vous dis, j'utilise plusieurs canaux et plusieurs chaînes, donc ils ont une façon de traiter. Souvent, c'est pas complet, mais en général, les informations sont quand même justes.
On écoutait cette femme-là, cette dernière qui a pris la parole, qui nous disait, elle s'informe par plusieurs canaux, plusieurs chaînes différentes. Mm-hmm. Mais ce qui est intéressant également dans ce micro-trottoir, c'est qu'entre le premier et le deuxième intervenant, il y a le premier qui nous dit, moi je m'informe qu'à travers Brut, je fais confiance qu'aux médias sur les réseaux comme ça. Mm-hmm. Et tu as le deuxième qui t'explique que bah, moi je fais confiance qu'aux grandes chaînes, aux grands médias, aux personnes qui ont pignon sur rue, pour reprendre son expression. Alborz, à qui on peut faire confiance finalement et comment on choisit à quel média faire confiance?
Bah déjà, cette nuance, je pense qu'elle est peut-être générationnelle ou peut-être les darons, entre guillemets, vont être plus sur chaîne d'infos en continu, ce qui, entre guillemets, labellise la vérité. Les jeunes, eux, vont peut-être aller chercher l'info sur Twitter, sur des médias comme Brut, peut-être, ou sur Quotidien, des trucs où ils ont l'impression que c'est un peu plus vrai. Donc, chacun trouve, voit un peu midi à sa porte, tu vois. Des fois, sur CNews, t'en as qui vomissent cette chaîne. Eux, sur CNews, ils disent non, mais nous, on est la seule chaîne de France où, justement, il y a la liberté d'expression, on peut dire ce qu'on veut. C'est une grande salade de fruits, hein. Mais bon, de toute façon, il suffit de regarder. Chaque média que vous regardez, il est forcément détenu par quelqu'un. Regardez juste qui est le patron de votre média et peut-être vous y verrez un peu plus clair dans le système médiatique.
Darina, comment toi tu t'informes et est-ce que tu arrives à faire le tri entre toutes ces sources d'informations différentes, qu'elles viennent des chaînes traditionnelles, qu'elles viennent de la presse écrite, qu'elles viennent de la radio ou encore des réseaux sociaux avec les médias digitaux qui prennent de plus en plus de place ?
Ouais, je pense que finalement, il y a quand même une complémentarité qui doit s'installer entre petits et grands médias nationaux et médias plus locaux. Tu vois, je discutais de la thématique hier soir avec ma cousine qui habite à Toulouse. Elle me dit, elle, quand elle allume la télé, en tout cas, elle n'entend que parler de Paris, Paris, Paris. Donc en fait, je comprends que les grandes news françaises, d'accord, sont relayées, mais il y a beaucoup de Paris, capitale. Et si elle veut trouver de l'information plus locale ou en tout cas plus proche d'elle ou dans laquelle elle puisse se retrouver, elle va être obligée d'aller taper dans des sources d'information alternatives, en tout cas plus locales. Et après, pour rebondir sur ce que disait Alborz, sur médias traditionnels versus médias plus jeunes, plus indépendants et plus numérisés, je pense notamment à la chaîne de Hugo Décrypte, qui a pris beaucoup d'ampleur. Et d'ailleurs, il a réussi à interviewer, je crois, tous les candidats à la précédente présidentielle, alors que ce n'était pas forcément le cas de toutes les grandes chaînes d'info tradies. Donc, je pense qu'il y a un vrai move et il y a un mouvement de aussi no bullshit, quoi. Genre, on veut que l'information vienne des personnes qui les créent et non des pas, qu'elle ne soit pas relayée par une tierce personne.
Coco, est-ce que toi, tu vois une évolution dans les médias depuis avant ? T'es un peu notre témoin du jour. Avant, est-ce que tu ressens une évolution ?
Toi qui as connu l'ORTF, Cosette.
L'évolution, je ne peux pas te dire, mais c'est vrai qu'avant...
L'histoire, c'est toi.
Avant, tu avais le média qui allait te donner ton information à la télé, mais on n'avait pas beaucoup de chaînes. En parlant du moment où il y a eu 3 chaînes. Tu avais des informations, tu avais celles qui étaient comme sur FR3 qui sont toujours régionales, où ça tu peux vérifier parce que tu as quand même les journaux de la région qui vont te relayer l'information, et tu as les nationales où tu ne pouvais pas vérifier comme on vérifie maintenant. Maintenant, je suis sur une page Facebook, tu es de Paris 13. Si peu qu'il y ait déjà de la fumée dans le ciel, tu as 15 posts sur « Oh, il y a de la fumée dans le ciel, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» Le truc des vieilles commères sur le marché. Mais sinon, les informations, pour moi, c'est toujours au même rang. Je me souviens, je travaillais à côté de l'OLP, et un jour, aux infos, ils disent qu'un attentat a été déjoué et qu'ils ont fait venir le service de déminage et tout. Ils expliquent... la boîte en plomb, le mis dedans. C'était une bouteille de parfum qui avait été oubliée sur un plot. Et ils ont fait sauter ça, mais comme ils ne veulent pas passer pour des cons, ils disent que c'était un attentat. J'étais donc en face, on avait une ambassade, je ne sais plus laquelle c'était. Ils ont dit qu'aux infos, donc, il y avait une voiture piégée qui a été démontée, qu'ils ont enlevé la bombe. Ils ont démonté une déesse de collection et il n'y avait rien dedans. Donc, si tu veux, qu'est-ce que tu veux croire des médias qui vont te sortir des conneries ? Quand tu vois, quand il y a eu les attentats au truc cachère, quand il y a eu ces grands trucs en 2015, quand tu voyais l'état des journalistes qui jouissaient des infos qu'ils donnaient, moi, ça me donne envie de gerber parce que pour moi, ce n'est pas ça un journaliste. À un moment donné, les gens, ils prenaient le canard enchaîné parce que le canard enchaîné démontait des infos qui avaient été données, qui étaient merdiques.
Et je pense que aussi, même sans remonter jusqu'à 2015, souvenez-vous 2020, toute l'époque Covid, confinement, etc. C'était tellement anxiogène au niveau médiatique, entre les fausses informations, les informations erronées, les pro-vax, les anti-vax, les complotistes. Je pense que ça a créé aussi quand même dans l'esprit de pas mal de gens un sentiment de désinformation totale.
Mais du coup, tant mieux, parce que les gens ont plus pris l'habitude de checker ce que tu disais tout à l'heure.
Tant mieux pour eux.
En tout cas, ce sont 11% des Français qui citent les réseaux sociaux comme source prioritaire d'information. Et sachez que presse et radio partagent le plus haut, presse écrite et radio partagent le plus haut niveau de confiance chez l'ensemble des Français, 73%. Ça veut dire que voilà.
Il y a déjà et 99% sur mon Paris FM, je crois.
Ils écoutent et ils nous font confiance. On va marquer encore une fois une courte pause, juste le temps de placer une annonce. Et on revient pour le second débat.
Ils ont traversé un parcours semé d'embûches, fait de hauts et de bas, de désillusions, jusqu'à atteindre la réussite. Ces acteurs, connus ou moins connus, se livrent dans l'émission À bout de souffle, chaque dimanche de 20h à 21h, au micro d'Aboubacar Conté. Une émission en partenariat avec isnews.fr.
Du coup, l'encre, elle est revenue ?
De retour dans ça dit quoi, toujours avec Coco, Alborz, Darina et Jason. Deuxième sujet, c'est l'école. Faut-il passer au 8h, 13h et délaissé les 8h, 18h. Hein. Il compte plus de 440 000 abonnés sur TikTok et beaucoup d'audace. Depuis la rentrée des classes, un jeune homme de 28 ans, baptisé Sensei Demo, ne passe pas inaperçu sur les réseaux. Jour après jour ou presque, il fait le tour des établissements scolaires à la rencontre des élèves et teste son idée, maintenant devenue virale, de réinventer l'école en allégeant les emplois du temps. Nous faisons face à des difficultés liées à une répartition peu optimisée de nos matières scolaires, indique-t-il dans une vidéo aux 3 millions de vues dans laquelle il interpelle aussi le président Emmanuel Macron et la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Anne Genté. On l'écoute.
Vous avez proposé de mettre les cours les plus exigeants le matin, notamment pour une question de concentration, c'est ça ?
Exactement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau, le cerveau surtout des adolescents, est beaucoup plus attentif le matin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même moi, je propose du 8h-13h et ce serait peut-être même mieux de faire du 9h-14h parce qu'il faut savoir que les cycles de sommeil des adolescents ne sont pas les mêmes que nous, les adultes. Et avoir les cours le matin permettrait d'avoir une meilleure concentration, permettrait aux professeurs d'être aussi, plus efficaces. Et l'après-midi, justement, les activités ludiques qui permettraient de décompresser. Et je pense qu'en faisant un système comme ça, les élèves seraient plus heureux d'aller à l'école.
Vous l'aurez compris, son projet est relativement simple sur le papier. Il propose de rassembler les cours les plus exigeants, tels que le français, les mathématiques, l'anglais, l'histoire géographique, les matins, pour laisser le champ libre, l'après-midi aux activités plus ludiques, comme la musique, les arts plastiques ou le sport. Les élèves sont plus réveillés le matin, c'est ce qu'on a entendu. À commencer par celui de sa sœur, hein. Il a pris comme exemple l'emploi du temps de sa sœur qu'il a revu et corrigé avec de la techno, car les frérots ils aiment la techno, alors je l'ai mis pour eux. Est-ce qu'on doit revoir le système scolaire Coco, Darina, Alborz, Jason, est-ce qu'on doit revoir le système scolaire?
Moi je dis le faire comme en Allemagne ou en Chine, ouais, parce que tu vois, c'est tous les gamins, ils savent utiliser un instrument de musique, ils savent faire plein de trucs. Alors qu'en France, on reste, les gens ils s'enfuient sur les réseaux sociaux.
Tu parlais de l'Allemagne. En Allemagne, les écoles primaires et secondaires, notamment dans certaines régions, ont souvent des cours qui se terminent en début d'après-midi, 13-14 heures maximum, avec des horaires plus concentrés le matin.
Ouais, et puis après, c'est sport et musique.
C'est ça, pour laisser place à des activités récréatives. Alborz ?
Oui, c'est tout le mal français, c'est-à-dire que on est le pays d'Europe où les jeunes travaillent le plus, on n'est pas du tout dans le top niveau
intellectuel.
Donc il y a un moment, il faut revoir le truc. Moi-même, je l'ai vécu, ces blocs de cours entre 9h et 18h avec une heure de perme, 30 minutes pour manger, enfin tous les cours qui s'enchaînent, c'est n'importe quoi. Prenons le modèle scandinave, nous qui aimons tant vanter les mérites du modèle scandinave en France, faisons un 8h midi, tu manges, et après de 14h à 16h, tu es obligé de faire une activité. Ça peut être une activité sportive, une activité culturelle, peu importe, mais créons quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Là, les petits, ils n'en peuvent plus avec leur gros sac à dos, là. Je les vois, là, dans le bus, la 27, là, avec leurs énormes sacs à dos de 10 kilos, ils ont le dos courbé et tout, non, franchement. Mais en tout cas, big up à eux, hein. il faut revendiquer, hein. On dit souvent que les jeunes n'ont aucun idéal politique, là, pour le coup, ils revendiquent, donc force à eux.
Darina, on est d'accord avec ça? Faut passer au 8h-13h et délaisser le 8h-18h?
Moi, je connais, tu vois, aujourd'hui dans mon entreprise, on travaille 4 jours par semaine. Du coup, ça me fait penser à réduire le temps de travail ou de cours de manière générale. Et nous, on fait ça depuis 4 ans et on a vu, par exemple, qu'on était moins en présentiel ou en tout cas, moins, on faisait moins de présentéisme. Enfin, on n'en fait pas du coup, mais en fait, ça veut dire que le peu, entre guillemets, de jours où on est au travail, on y va à fond la caisse et on est full concentré. Donc là, voilà, ça, je parle vraiment de mon expérience parce que voilà, je peux pas parler au nom des adolescents, mais je me dis que si on applique la même logique, ça voudrait dire retenir uniquement les matières qui sont les plus importantes, celles que tu citais tout à l'heure à bout, et de se dire on met moins d'heures de cours, mais par contre, on apprend que des choses beaucoup plus pragmatiques qui vont pouvoir réutiliser plus tard.
Coco, pareil, hein, encore une fois, tu es notre témoin. Est-ce que tu as l'impression qu'à l'époque, à ce niveau-là, c'était mieux organisé au niveau des horaires, ou est-ce que c'était le même système? Ça a toujours été en fait des longues journées d'école en France.
C'était des longues journées, mais on ne peut pas comparer avant et maintenant. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a la télé
pratiquement H24. Il y a les tablettes, les trucs comme ça. Donc, tu peux pas comparer le fait de... Nous, en fin de compte, on allait à l'école. Bon, c'est vrai qu'on avait beaucoup d'heures de... j'avais 2 heures de piscine, j'avais 2 ou 3 heures de sport. Et le reste, ouais, c'était de 8 heures... 8 heures tard.
Mais moi, je vois,
pour manger.
Je donne des cours aussi de temps en temps. Et quand je donne des cours l'après-midi, mais tout le monde dort parce que t'es en pleine digestion. Donc, ouais, en effet, le créneau que tu disais, Alborz, 14-16, je pense que personne n'est vraiment full productif. T'es en pleine digestion. Donc, autant faire une activité plus manuelle ou créative, en effet.
Jason, tu partages cet avis? T'es d'accord avec ça? Le fait de faire école 8 heures.
Ah oui, oui, totalement. Je milite pour ça, même si je suis plus concerné, comme tu me disais tout à l'heure. Effectivement, oui, je suis plus concerné par ça. Mais moi, je parlais justement, je sais pas si vous en avez parlé, hein, excusez-moi, mais des activités créatives ou le sport. Souvent, on dit que la France n'est pas un pays du sport. Et c'est vrai, quand tu vois certains emplois du temps de gens qui vont à l'école dans d'autres pays, c'est totalement mieux, quoi. Ça laisse même place à la créativité, à plein de choses. Donc moi, si t'es tout le temps dans tes bouquins, c'est pour ça que les gens ils sont souvent assez saoulés tôt de l'école, quoi, et qui décrochent aussi, je pense. Donc je pense que non, c'est important. Moi, je suis totalement pour.
Bah, pour prendre en comparaison avec d'autres pays, par exemple en Espagne, certaines écoles espagnoles, notamment en Andalousie, Jason nous disait où il fait très chaud, les cours commencent tôt le matin et finissent en début d'après-midi autour de 14h.
Ils font la sieste.
Exactement. En Italie, dans certaines régions, pareil, les élèves ont cours de 8h à 13h ou 14h au maximum, surtout pour les élèves de primaire et du secondaire, qui est l'équivalent du collège en France. En Allemagne, on en parlait tout à l'heure, on termine aux alentours de 13-14h pour laisser place à des activités ludiques. Dans les pays scandinaves, Suède, Norvège, Danemark, les élèves peuvent avoir des journées scolaires qui se concentrent essentiellement le matin et finissent pareil autour de 13 ou 14 heures. Et au Japon, les cours, eux, par contre, vont jusqu'à 15-16 heures, mais on peut avoir des horaires allégés. On a la possibilité d'avoir des horaires allégés avec une majorité de cours que le matin. On voit que la France, c'est un peu un des seuls pays en retard à ce sujet-là. Mais ce qui nous différencie aussi des autres pays, par exemple, c'est que nous, on a plus de vacances qu'eux. Alors, moi, j'ai une solution et on en discute. Vous me dites si ça vous va. Est-ce qu'on supprimerait pas une partie de nos vacances? Là, au lieu d'aller en vacances, on les met en heure de cours, comme ça on arrive à avoir cours que le matin.
On peut enlever une petite semaine à la Toussaint, à la rigueur, mais...
Qu'une semaine?
Non, mais après, c'est les profs. Les profs, ils veulent pas que tu touches à leurs vacances non plus, tu vois. C'est plus eux que ça va déranger. Non, je pense qu'il faut totalement tout réformer.
Faut tout
directement
revoir,
ouais. Faut pas aller chercher à faire un petit truc à gauche. Non. Rah comme une 6ème République.
Table rase.
On réforme l'éducation nationale. Chaque ministre de l'éducation nationale qui est passé depuis ces dernières années, oh, je vais réformer. Non, là, il faut totalement tout revoir, jusqu'au programme et jusqu'à la manière d'enseigner.
Mais en Bretagne, ils finissaient fin.
C'est un pays, la Bretagne.
Non, mais parce que ça.
Langues.
Mais non, mais il y avait Meignery qui était, je sais plus quoi, ministre de je sais plus quoi, qui lui faisait faire des essais dans son département et où les jeunes, ils finissaient, il y en a qui finissent sur Paris, je crois, mi-juin, et eux, ils devaient finir vers le 15 ou première semaine de juillet et qui reprenaient l'avant-dernière semaine d'août. Donc, leurs vacances étaient réduites, mais ils travaillaient moins de temps pendant toute l'année.
Okay.
Et c'est vrai que les résultats ont été quand même bien.
Donc, il y a une corrélation entre le nombre d'heures travaillées
ouais,
et les
puis même, ça allégeait pour les parents, ça allégeait pour une grande partie des gens.
Mais les activités de l'après-midi, elles sont organisées dans le cadre scolaire ou dans le cadre privé? Parce que les parents, ils n'ont peut-être pas la possibilité d'aller chercher
ça,
leur enfant
sais pas
à 13 heures.
Ça, je ne sais pas comment c'était organisé. J'avais une copine qui était touchée par ça, puisqu'elle avait ses deux gamins qui reprenaient donc... qui finissaient plus tard et qui reprenaient plus tôt, ce qui fait que eux, ils pouvaient partir en vacances avec leurs deux enfants sans problème. Si tu veux, il n'y avait pas de problème de garde, des trucs comme ça. Mais je m'en souviens pas du tout. Mais c'était allégé. Au lieu d'avoir, je crois qu'ils travaillaient pas le samedi ou le mercredi, je sais plus.
Albors, il parlait de réformer hein, tout le système scolaire. Anne Genté, la ministre de l'Éducation nationale, elle, elle a entendu les mots de Sensei Desmois, elle a vu c'est plus de près de 300 000 signatures et elle n'est pas insensible en tout cas à ces protestations d'élèves. On écoute.
J'ai reçu des milliers de questions après ma première vidéo. Alors merci à vous, ça montre votre engagement au sujet de l'école. On va se parler franchement, sans détour, je vais répondre directement à la pétition de Sensei Desmois. Dans sa pétition, il y a trois points principaux. Premièrement, sur la prévention du harcèlement et la gestion des comportements, il propose de remplacer des sanctions punitives par des activités de bien-être et la gestion de l'énergie pour les élèves perturbateurs. Sur le harcèlement, ma position est très claire. On ne laisse rien passer. Désormais, un élève harceleur peut être changé d'établissement. En plus, des cours d'empathie sont mis en place, ce qui rejoint l'idée de Sensei Desmois sur la méditation, la réflexion, la psychologie. Pour signaler les cas de harcèlement et de cyberharcèlement, un seul numéro à appeler, le 3018. Deuxièmement, sur les lieux de parole, ça existe déjà dans les lycées. Des lieux où vous pouvez vraiment agir. Alors vous avez le Conseil de la vie lycéenne, ou CVL, avec 10 lycéens qui sont élus pour 2 ans. Et ils sont consultés sur les cours, sur les activités et même sur la santé. Au niveau académique, il y a le Conseil académique de la vie lycéenne. Et puis au niveau national, il y a le Conseil national de la vie lycéenne avec 64 lycéens qui défendent justement ces sujets. Ce sont eux qui vous représentent. Et au-delà de ce qui existe déjà, vous pouvez porter des projets, porter vos idées au niveau de votre école. Et vraiment, moi, je vous y encourage. Le troisième point que vous attendez tous, je le sais, je l'ai lu, c'est l'organisation des cours de 8h à 13h. Je sais que vous avez des journées déjà bien chargées avec les cours, les trajets, les activités après l'école. J'écoute toutes les bonnes idées. Je suis aussi réaliste et je ne vais pas vous mentir, on ne va pas changer toute l'organisation des cours alors que l'année a déjà débuté. Parce que ça changerait beaucoup de choses. Les personnels qui encadrent ces activités, les lieux et les structures à adapter et puis les modes de garde pour les parents qui travaillent. J'ai proposé à Sensei Desmois qu'on se parle ici au ministère. Mes équipes lui ont envoyé une invitation. Dans ma méthode, j'écoute beaucoup ce qu'on me dit, j'ai lu beaucoup de vos commentaires et je n'ai aucun tabou.
C'est du bullshit ou vous pensez qu'il y a vraiment moyen que 300 000 jeunes qui aient signé cette pétition, ça puisse faire changer des choses au niveau de la ministre?
Du bullshit, je sais pas, mais bon, déjà, elle a vu qu'elle était obligée de répondre. Voilà comment une gamine de 15 ans a réussi à faire toc-toc à la porte de la ministre. Donc 300 000 signataires, elle est obligée de répondre. Toute son équipe a dû dire « Madame la ministre, il faut répondre ». Maintenant, on ne va pas se mentir, ça ne va pas ramener de grands changements. Elle a pris le sujet du harcèlement, qui est un sujet qui est une cause nationale, attention, hein, mais je pense pour un peu aussi esquiver le côté des heures où ce n'est pas prêt de changer.
Ouais, même pour le harcèlement, malgré tout ce qui est fait, qui est mis en place.
Jason, c'est quand on entend la ministre qui répond à des élèves comme ça, c'est aussi la force des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut interpeller directement nos élus, ils sont pas élus, ils sont élus les ministres,
nos dirigeants
politiques entre guillemets. Est-ce que tu penses que ça peut réellement changer les choses? Est-ce que les réseaux sociaux peuvent participer au changement entre guillemets du système?
Ça dépend, ça peut faire bouger des choses. Ça peut faire plein de belles choses, mais au niveau politique, non, je crois pas. Franchement, j'ai trop de mal. Ce serait pour eux une défaite de pouvoir, enfin, tu vois, ils auront l'impression de se rabaisser, tu vois, de répondre par la voix des réseaux publics. C'est un peu, une défaite pour eux, je pense. Mais c'est bête, hein, mais non, moi, je pense pas que ça fasse bouger les choses.
Dorina, on partage ta vie?
Non.
Bah, on écoute ton avis. Le non venait tellement du cœur, non.
Bah, moi, je suis assez optimiste et je suis pour l'écoute. Donc, honnêtement, déjà là, le fait qu'elle ait fait une vidéo pour en parler, c'est un premier pas vers eux et qu'elle puisse rencontrer la personne qui a initié la pétition. Je trouve que c'est déjà plus que ce qu'ont fait d'autres ministres qui parlaient sans le faire. Donc, ouais, moi, je suis plutôt vers à moitié plein. Je vais voir ce qui va se passer.
Rencontre qui a d'ailleurs dû être annulée avec le créateur de la pétition pour des propos qu'il a tenus par le passé.
Elle trouve toujours des choses à
qui ont refait surface. Elle a répondu en vidéo en expliquant que finalement elle ne pourrait pas le recevoir suite à des propos qui ont été tenus, en plus qui ont été tenus contre Gabriel Attal, qui est lui-même ancien ministre de l'Éducation nationale. Donc, on ne reçoit pas la personne qui est à l'origine de tout ça, mais on fera en sorte de recevoir un groupe qui viendra défendre cette idée de...
Ça en est où, ça, du coup? On a des nouvelles?
Ah, ça, après.
Ça va tomber dans l'oubli et puis il y aura
Faut trouver le paternel, maintenant. Faut trouver celui qui accepte d'y aller pour tous. Mais en tout cas, pour l'instant, l'idée, elle est un peu en suspens à cause de ces anciens propos qui sont ressortis. Donc, voilà, faites aussi attention à ce que vous postez sur les réseaux sociaux, ça nous revient toujours d'une manière ou d'une autre.
Dans la gueule. Ah,
j'allais dire la figure, mais dans la gueule aussi. Ça marche. On va se... Encore une pause. On a besoin de respirer aujourd'hui. On respire beaucoup. Mais promis, c'est la dernière pause. Et après, c'est du tout froid jusqu'à la fin de l'émission.
Découvrez Mon Afro Paris avec Soum Duval. Votre nouveau rendez-vous afro-culturel du week-end. Entre musique, débat et actualité, vibrez au rythme de l'Afrique et de ses diasporas tous les vendredis à 19h en direct sur Mon Paris FM. Mon Afro Paris, c'est l'essence de la culture afro à Paris.
De retour dans Ça dit quoi, Mon Afro Paris, présenté par Soum Duval, tous les vendredis 19h, 20h30 à Mon Paris FM. C'est également une programmation variée, du sport à la politique, en passant par la musique, la société. Vous avez de tout chez nous. N'oubliez pas, n'hésitez pas surtout à télécharger l'application Mon Paris FM. 4 émissions en direct, plus de... C'est 21 émissions, si je dis pas de bêtises, wow. Jason. 21 émissions par mois. C'est Jason qui m'apprenait ce chiffre.
C'est loin des trois d'avant.
C'est l'époque où il y avait une émission toutes les deux semaines.
On a évolué un peu. On a grandi un peu.
Incroyable.
C'était la tienne.
Donc voilà, il y a de tout pour tout le monde. On va passer à une nouvelle chronique. Ça s'appelle l'édito. L'humeur du jour. Je prends le micro. Je capture le micro. 3 minutes et je fais un édito. Allez. On en débat quelques minutes et ensuite... Ensuite, on passe au jeu. Je te laisse lancer les jingles, Jay.
Il est long, hein.
La Martinique traverse une période complexe marquée par des tensions sociales profondes et une incertitude économique croissante. Les récentes grèves et manifestations ont mis en lumière un malaise structurel qui dépasse les revendications immédiates. L'ombre de l'histoire plane sur cette île, rappelant que les cicatrices du colonialisme et de l'esclavage continuent d'alimenter les divisions et les frustrations. Les revendications actuelles, qu'elles concernent la question de la vie chère, la dégradation des infrastructures ou encore la question de l'autonomie, révèlent un malaise sociétal profondément enraciné. Les Martiniquais dénoncent depuis des années un modèle économique inégalitaire, une dépendance excessive vis-à-vis de la métropole et une absence de perspective pour la jeunesse. L'explosion des prix accentuée par la crise mondiale a exacerbé ces tensions. Cependant, il ne s'agit pas seulement d'une crise économique, il s'agit avant tout d'une crise identitaire. La Martinique, comme d'autres territoires d'outre-mer, cherche à concilier son héritage historique avec une vision d'avenir plus juste et inclusive. Mais cette réconciliation avec son passé douloureux ne peut se faire dans un dialogue sincère entre les différents acteurs, populations locales, autorités publiques et métropoles. La gestion des crises en Martinique, trop souvent marquée par une approche technocratique et déconnectée des réalités locales, a montré ses limites. Les solutions temporaires, les réponses paternalistes ne suffisent plus. Il est temps d'écouter véritablement les aspirations des Martiniquais, d'encourager leur participation active dans la prise de décision et de repenser le lien entre la métropole et ses territoires ultramarins. Pourtant, il est aussi crucial d'éviter l'enlisement dans une spirale de confrontation. Si les revendications sont légitimes, la violence et le blocage ne pourront jamais être des réponses durables. La construction d'un avenir meilleur pour la Martinique passe par une solidarité retrouvée à la fois entre Martiniquais et avec la métropole. La Martinique mérite mieux que des promesses non tenues et des solutions de fortune. Elle mérite une politique ambitieuse tournée vers l'avenir, respectueuse de son identité et de son histoire. Les défis sont immenses, mais ils peuvent être relevés avec une volonté politique forte et un engagement sincère de tous les acteurs. Il est temps pour la France de repenser son rapport à ses territoires d'outre-mer, non pas comme des périphéries lointaines, mais comme des partenaires à part entière, avec leurs spécificités, leurs richesses et leurs aspirations. Il est temps pour la Martinique de se réapproprier son destin. C'était l'édito du jour sur ce qui se passe en Martinique. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi ce qui se passe là-bas, pardon, avec la hausse des prix et cette violence, quoi, les manifestations, cette révolte populaire. Et est-ce que vous en pensez, vous, à titre personnel, individuel?
J'ai suivi de loin, mais ça fait longtemps que dans les Antilles le feu brûle. Effectivement, on peut pas dire un côté, c'est la France, et de l'autre, appliquer une logique qui les exclut un peu du truc national. C'est-à-dire que, mais c'est quoi les prix, là ? J'ai vu des TikTok cette semaine, là, j'ai une petite bouteille de San Pellegrino devant moi, le pack de 6 comme ça, 11 euros, la bouteille d'huile d'olive à 14 euros, le Nutella à 18 euros. Mais est-ce que vous vous rendez... Déjà, nous, à Paris, on se plaint, on vit le conflit avec l'Ukraine, parce que tout ça, ça part de l'Ukraine, hein, pour nous ici, où il y a une flambée des prix, mais pour nos compatriotes d'Homtom des Antilles, c'est une dinguerie. Je ne sais pas comment ils font pour joindre les deux bouts. Et du coup, ça pète.
Ben là, ils ont réussi à obtenir la baisse de 20% du prix sur 4000 produits, si je me souviens bien. Et pour autant, ben, ce n'est pas suffisant parce que ben, c'est un premier début, c'est très bien. Mais ouais, comme disait Alborz, les prix là-bas, c'est n'importe quoi.
Jason, pareil, toi, t'es, si je ne dis pas de bêtises, tu es originaire de la Guyane.
Ouais.
Est-ce que
Guyane. Guyane, allez, je note cette information qui vient s'ajouter à mon dossier sur Jason.
Pourquoi t'es pas breton?
Non, je suis
Guyane qui est également un métissage. Guyane qui est également un territoire d'outre-mer.
Exactement.
Oui. Si je ne dis pas de
bêtises. On rappelle que la Guyane n'est pas une île.
Qui est vers le Brésil.
Exactement, c'est entre le Suriname et le Brésil.
Et est-ce que toi, Jason, à titre personnel, ou de parce que tu aurais pu entendre par ton entourage, il y a une défiance envers la France, ou est-ce que tu as l'impression en tout cas que les territoires d'outre-mer ne sont pas pris en considération comme les territoires...
Bah oui, j'ai l'impression qu'ils sont simplement délaissés et que voilà, on les utilise quand il y a besoin, quoi. Mais oui, c'est totalement délaissé. Et puis j'ai l'impression qu'on leur impose pas mal de produits importés. Il y a beaucoup de marques françaises qui se retrouvent là-bas. Alors que voilà, je trouve pas ça normal. Et oui, c'est exorbitant. Les prix sont démentiels, c'est n'importe quoi. Donc non, moi je trouve ça triste. Et puis c'est pas beaucoup médiatisé. J'ai l'impression que ça revient tous les temps, tu vois. Mmh. Et puis qu'après c'est oublié et puis rebelote, quoi.
Oh, mais chaque révolte.
C'est ça. C'est on n'en parle pas assez en métropole, quoi.
Coco. Mmh. Pareil, tu es comme Jason, tu trouves qu'on n'en parle pas assez, c'est un sujet qui te touche, qui te concerne,
mais
tu t'intéresses
sait, de... Non, mais on sait déjà de tout temps que c'est horriblement cher. Moi, j'ai une amie qui est à La Réunion, qui, quand elle vient sur Paris, s'achète plein de trucs et qu'elle s'envoie par la poste.
Dans la vraie vie, tu t'étouffes pas quand tu parles. Tu t'étouffes que à la radio, c'est ça que je comprends pas.
Elle est émue.
Elle te parle toute la journée, elle est très fluide, elle parle quoi. Dès qu'elle descend ici.
C'est son gimmick, c'est son péché.
C'est son gimmick en fait, elle joue un rôle. Elle touche les assurances, elle disait écoutez la radio, la chance, je suis en train de mourir et tout. On a cramé ton vice, Cosette.
C'est pas vrai, ça fait une semaine qu'on me voit pas, donc faut arrêter.
Ça va, quoi?
Ouais. Non mais c'est vrai que ça fait longtemps que ça dure ce problème là et on fait rien. Oh puis zut. Ah ouais.
Faut du miel.
Bon en tout cas mais Alban ça traduit aussi un peu c'est toi que désolé que je vais lancer dans ce bourbier là mais ça traduit aussi un peu d'une politique qu'a la France avec...
Oui, les blancs, les béquets, disons-le, on peut le dire. On peut le dire, on a plus rien à perdre.
Non seulement avec ces territoires d'outre-mer, mais également avec ces pays anciennement colonisés. La France a du mal, en tout cas,
Ils ont du mal, puis c'est vrai que les Antilles, il y a ce truc aussi un peu malsain. C'est pas eux. De toute façon, il suffit de regarder la fonction publique. Hein. Qui veut aller finir, qui veut être muté dans les Antilles, que ce soit à la police, à la mairie, à la poste, les profs. Les Français qui viennent des Antilles aient le droit au congé bonifié, puissent retourner là-bas, ça fait partie du truc et ça, il faut pas l'enlever. Mais il y a un rapport où voilà, c'est des Antilles, c'est le soleil, il fait beau, les cocotiers, on boit du rhum, enfin, c'est cliché, mais c'est un peu comme ça aussi que les gens voient le truc, tu vois. C'est à des milliers de kilomètres, c'est pas grave. Donc non, ça fait partie de l'histoire de France et il faut pas laisser ça comme ça. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des voix de personnalités antillaises. Je pense par exemple à Kalash qui s'engage sur ces gens-là, Francky Vincent, Thierry Henry, plein de gens et qui s'approprient le truc parce que c'est surtout de la méconnaissance. Nous, en métropole, on ne sait pas forcément ce qui se passe. Et là, on commence à le voir. Ça fait écho aussi à ce qui se passait en Nouvelle-Calédonie avec les Kanakis. Il y a un mouvement en ce moment dans les France des Outre-mer de résistance et de dire stop, tout simplement.
Mais plus qu'avant, tu trouves, du coup ?
Plus que,
parce que
plus
je trouve
qu'avant,
que, tu vois,
de
c'est quelque chose
plus
de
fort.
Récurrent, ça arrive et puis ça repart et quelques années plus tard ça revient, tu vois.
Mmh. Ouais, mais je pense que là le ras-le-bol général fait que en fait vas-y, il va y avoir des morts en fait. Donc ouais, ils sont obligés d'agir.
OK.
Ils sont obligés d'agir et d'ailleurs il y a un couvre-feu, il y a des CRS qui viennent de métropole, donc il y a une ambiance qui est quand même assez anxiogène, assez particulière.
En tout cas, comme le disait Darina, l'État a annoncé mercredi soir avoir signé un accord, notamment avec les distributeurs, pour baisser de 20% en moyenne les prix de l'alimentaire. Un accord qui n'a toutefois pas été signé par le collectif Rassemblement pour la protection des peuples, qui lui appelle à poursuivre la mobilisation. En tout cas, on est de tout cœur avec nos compatriotes des entiers d'outre-mer de manière générale. On passe un peu de détente au jeu, on arrive, on tend.
Ah, on va
tend,
jouer.
Je vais parler comme Malik. Qu'on salue s'il
est. Il vient quoi, Malik ? Qu'il y a des nouvelles de Malik ?
Pas nous.
Il est plus dans le 13ème, on sait pas. Hein, parce que je sais pas, on le croise plus. Moi, j'aimerais bien le voir, avoir des nouvelles.
C'est vrai qu'avant, tu le voyais pas, mais tu le croisais dans le quartier. Là, il a peut-être déménagé.
S'il nous écoute, Malik, on t'invite à venir. On tend allègrement vers la fin de cette émission. C'est du Malik tout craché dans le texte.
On tend allègrement vers
la fin de cette émission. Place donc au jeu.
Le jeu de Jay.
Wow. C'est quoi le jeu cette semaine, Jay?
Bah écoute,
c'est un nouveau jeu apparemment.
On va innover cette fois.
Il faut avoir être ingénieur pour comprendre les règles.
Je vais laisser Coco l'expliquer parce qu'elle sait très très bien l'expliquer. Vas-y Coco, je t'en prie. Est-ce que tu t'en souviens? Dis-moi, tu t'en souviens quand même?
Ben ouais, je m'en souviens.
On va perdre la voix pendant l'explication, ils vont comprendre une chose sur deux.
Mais non, regarde. Sa voix suave va faire le taf.
Voilà, j'ai toussé. J'ai lancé le jingle. Non, ben c'est les anecdotes. On a envoyé...
C'est
à...
le début d'une blague. Alors c'est l'histoire d'une anecdote.
D'une
pute.
On a envoyé des anecdotes à Jason. Et donc, il va dire l'anecdote et on devra trouver à qui appartient l'anecdote.
Okay.
Et sinon, il y a un petit truc en plus qui se rajoute, c'est-à-dire qu'il a envoyé à chacun d'entre nous, je pense, une anecdote qu'il va falloir qu'on étaye. Et à ce moment-là, il faudra que vous trouviez si c'est vrai, si c'est faux. Et donc, et on dira la vérité si c'était une vraie info ou une fausse info.
Voilà, à chaque fois, je vous demanderai, merci Coco pour cette explication très claire. À chaque fois, je vous demanderai si c'est vrai ou si c'est faux à la fin de chaque explication d'anecdote. Voilà, tout le monde est prêt ?
Tout le monde est prêt, let's go.
Très bien, commençons par la première. J'ai croisé un ministre dans le métro.
J'ai croisé
un ministre en activité ou un ancien ministre ?
Un ministre en activité, j'imagine.
S'ils ont des chauffeurs. Hein.
C'est vrai qu'un ministre qui prend le métro, c'est...
Ça ressemble tellement à un mensonge comme anecdote.
Non, mais ça...
Mais comment tu croises un ministre dans le métro ?
Je sais pas, écoutez. En tout cas, c'est une anecdote.
Déjà, on sait que c'est pas Coco, elle prend jamais le métro.
Ça, c'est vrai. Après, Darina, peut-être qu'elle fait des escapades nocturnes, on sait pas.
Ouais, Darina prend beaucoup le métro, Darina.
Darina. D'accord.
Alborz.
D'accord, Coco dit Alborz.
Il est croisé avec Alborz.
On peut dire que c'est faux, c'est personne ?
Normalement, il n'a pas les...
Ok. Bah ouais, Darina, tu vois, pourquoi pas.
Darina, d'accord. Donc Darina, j'espère que t'as ta carte Navigo. à vous.
Ouais, j'ai dit moi Darina, je pense.
Ah oui, pardon.
Alborz, il est croisé dans un autre environnement et Coco, elle...
Ouais.
Elle prend pas le métro.
Moi, je croise dans des clubs échangistes.
Je vais m'embêter.
Très bien. Et bah cette anecdote, c'est à bout normalement.
C'est totalement à bout.
Ah, j'ai hésité.
Ancien ministre, c'est pas Punjai. C'est vraiment une dinguerie. Je suis dans la ligne 5. Et pour tout vous dire, je vais pour aller manger. De toute façon, moi, quand je prends le métro, souvent c'est pour aller grailler. Je suis un bon gourmand. Je prends le métro, je suis dans la ligne 5.
Un bon gourmet aussi.
Aussi. Je suis dans la ligne 5, tranquille, posé. Mais ce qui, en fait, ce qui m'a étonné, c'est pas de le croiser dans le métro. À la limite, je le croise dans la ligne 1, c'est pas grave, ça va, c'est la ligne 1. Si je le croise dans la ligne 5, mais vers Bobigny, genre vraiment vers le.
Ah ouais.
C'est quand c'est tendu dans la ligne 5, quand ça arrive à Riquet, Jaurès, Crimée, et je crois qu'il descend, en plus, si je dis pas de bêtises, il descend à Riquet ou Crimée, si je dis pas de bêtises. C'est dans, dans la 5 que je le croise, vers, avant Bobigny. Et je le vois et je me dis, mais je le connais en fait, je sais qui est ce gars. Je le regarde, il me regarde. Et tu vois, moi j'ai le réflexe de sortir mon tel.
Ils s'embrassent.
Non, mais je vais faire un snap. Je vais faire un snap pour montrer que.
Et tu le snaps devant lui, genre.
Ouais, mais je snap pas sa tête parce que le gros bouffon que je suis, je veux pas que je vois. Je snap ses pieds. Sauf qu'il y a le flash.
Ah la
vie de ma mère, le gars il me regarde comme ça en mode. Il se retourne.
Il
me parle pas, il me parle absolument pas. Il se retourne. Et il descend à la station d'après, mais c'était en mode, mais c'est qui ce taré, pourquoi il filme mes pieds? À la limite, demande une photo, frère.
Fétichiste des chaussures, le gars, bizarre.
Et donc, voilà, j'ai croisé Pape Ndiaye. Mais ça m'a étonné aussi, parce que je me suis dit, enfin, il était... C'était là, hein, c'était il y a un ou deux mois. Et je me suis dit, mais un ancien ministre, enfin, il était là, la ministre, il n'y a pas si longtemps que ça. Il devra avoir assez de sous, pour avoir un chauffeur.
Mais l'odeur, peut-être il y a quelque chose qui le rappelle, quelques bah fils d'eau, des rats, il aime ça peut-être.
Il reste proche du peuple.
Il y en a, mais moi aussi, mais c'est pour ça que j'ai demandé ancien ou pas, parce que quand ils sont en exercice, ils ont des chauffeurs, mais ouais, ouais.
Mais non, mais attends, surtout Abou, est-ce que c'est vrai ou c'est faux?
Non, c'est une vraie anecdote. C'est une vraie anecdote.
Non mais t'as pas compris le principe.
Si, je viens de te dire, c'est une vraie anecdote. Tu m'as demandé si c'est vrai ou faux.
Oui, c'est vrai.
Oui, elle est vraie. C'est une vraie anecdote.
En fait, c'était plutôt à nous de dire si c'était vrai ou faux.
C'est sûr de dire Abou.
Oui, je me suis trompé. Ouais, c'est bon. Ok, génial. Merci Abou pour cette anecdote.
Les amis, pour le coup, est-ce que je peux juste faire une dédicace très rapide? Parce qu'on nous écoute vraiment sur le live. Donc, grosse dédicace à Anna. Anna from Georgia and Paris. She's listening to us. Et ça, c'est vrai.
Totalement. Salut Anna.
Salut Anna.
Hi.
Anecdote suivante, Dieu.
Ouais, on y va, écoutez. On enchaîne avec...
C'est qui, tac,
une
tac.
Fois, une fois, mon téléphone est tombé dans les toilettes 5 minutes après l'avoir acheté.
Bah, ça, c'est Albert, c'est sûr.
Albors, Darina dit Albors, d'accord.
Parce que je te vois très connecté, je sais que
mais
t'es...
comment ton
pas
téléphone
tombe
dans les toilettes 5 minutes après l'avoir acheté? Genre que tu l'as acheté et t'es allé dans les toilettes publiques directement.
Eh, on sait pas la vie de chacun. Ça se trouve que tu vas aux toilettes que dans les centres
je
commerciaux.
Je le vois tellement accroché à son téléphone qu'à mon
c'est
avis...
C'est Albors, ouais. C'est Borzal.
C'est
okay,
sûr.
Albors. Albors, tu dis qui?
Je dis Darina.
Darina, très bien. Et Coco, on va sur qui?
Je dis Abou.
Abou, bah oui, Abou, le mec qui a combien de temps d'écran? Je crois qu'il a plus de...
Ouais, je suis accro à mon téléphone.
15h, 16h.
Justement, ils tombent pas dans la tête, moi.
Du coup, est-ce que la personne propriétaire de cette anecdote peut se manifester?
Ouais.
Ah, c'est toi, Darina?
Eh oui.
Ok, tu peux nous en dire plus, s'il te plaît?
Ah bah vraiment.
Bah, en gros, je suis sortie de la FNAC, j'étais trop contente, j'avais mon téléphone Samsung S20 rose, je précise. Et donc, je file jusqu'à chez moi, qui était juste à côté.
Ah oui, donc ouais, t'habites juste à côté, quoi.
Ouais, c'était la FNAC Italie 2, à l'époque où la FNAC était encore là.
Oui, on s'en rappelle.
On s'en rappelle. Et donc, je suis trop pressée d'ouvrir la boîte, de commencer à faire les paramétrages pour voir un peu comment ça se passe. Mm-hmm. Sauf que, j'ai une petite vessie et moi, dès que je sors quelque part et que je rentre chez moi, la première chose que je fais, c'est passer aux toilettes. Et forcément, j'avais trop envie de découvrir mon nouveau téléphone. Et là, la tuile.
Ok.
Voilà.
Merde.
C'est le Samsung qui est là, posé sur la table?
Oui.
Il a fait plouf?
Il a fait plouf.
Ok. Et il a l'air de bien aller,
ouais,
en tout cas.
Il a pas l'air de...
Oui, ça va.
Quelques traces marron, mais sinon.
D'accord. Est-ce que, à votre avis, cette anecdote, elle est vraie ou elle est fausse?
Je suis fausse.
D'accord, Coco?
Elle est tellement fausse.
Et Albors?
Elle est totalement fausse.
Elle est fausse de où?
Et alors, est-ce qu'elle est vraie ou elle est fausse, Darina?
Bah, fausse, parce que.
Mais ça se voit qu'elle est fausse.
Oh non!
Faut que je t'apprenne à mentir.
Franchement, j'arrive pas à mentir.
Parce que t'es trop niaque, t'es trop mimes, t'es trop gentil, ça se voit. Non,
et c'était très précis, le Samsung Galaxy S20 rose, ouais. Et puis il était sur
c'est
la table.
Ça, c'est Maëva qui me l'a dit, si jamais elle écoute cette émission. C'est Maëva qui m'a dit ça un jour, quand il y a trop de détails dans un mensonge, dans une histoire, c'est que c'est un mensonge.
Ah, ok, merci beaucoup.
Ne donnez jamais trop de détails.
Ouais. Moi, petite vessie, j'ai su que tu mentais.
Que tu es courant de la taille de sa vessie.
On passe à l'anecdote d'après, Jason.
Ok, on enchaîne. J'ai envoyé un message à la mauvaise personne et en fait, là, à ce moment-là, j'ai délivré un gros secret.
C'est quoi l'anecdote ?
Regarde Coco, elle se marre déjà.
C'est Cosette, ça.
J'ai envoyé un message à la mauvaise personne et c'était un gros secret que j'ai partagé.
C'est Cosette
à la...
sur Facebook, ça.
On va faire comme si rien ne s'était passé, on va faire un tour de table. Abou, c'est qui
Coco.
Pour toi ? Darina, c'est qui pour toi ?
Coco.
Et pour toi, Alborz ?
Coco.
D'accord, très bien. Coco, c'est qui pour toi ?
Bah, c'est moi.
Ok, super. Écoute, on t'écoute. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et surtout, on veut savoir, c'était quoi ce secret ?
Après,
t'es pas obligé de le dire. Si c'est vraiment privé, je peux comprendre. Vas-y.
Le secret, j'avais rendez-vous avec mon copain. Et le problème, c'est que j'ai envoyé le message à sa femme.
Ah,
mais comment t'avais son numéro ?
Pardon ?
Parce que c'était une copine.
Ah oui !
Oh là là ! T'es donc dans ça ?
Mais même, ça m'arrive avec des mails du boulot, donc...
Oh là là, Cosette, on apprend tous les jours. C'est comme Jason, toi, t'es plein de surprises.
Ouais,
hein.
Ouais.
C'est clair, okay. Je vais créer un dossier sur toi aussi.
Très bien,
tu peux,
ça me choque, mais qu'à moitié, quoi. Est-ce que d'après
le mec, il est resté avec qui ? Il est resté avec toi ou avec sa femme ?
Non, avec sa femme, j'en voulais pas à 100% dans ma vie. Non, elle, la merde, et puis moi, le plaisir.
Ah là là, mais c'est cool. Est-ce que cette anecdote est vraie d'après vous ?
Elle est tellement... Mais je suis sûr qu'elle est vraie.
Ouais, c'est sûr qu'elle est vraie.
Alborz ?
Cosette, faire... Il y a une part de moi qui a envie d'y croire, mais je vais dire faux.
Alors, Coco ?
Ben, c'est faux.
C'est faux. Ouais,
tu m'as étonné comment t'as bien menti, là.
Mais l'histoire est vraie.
Quoi ?
Attends.
Quoi, je comprends pas.
Du coup, c'est pas faux. Mais c'est pas la protagoniste.
C'est une fausse info. C'est pas moi qui l'ai donné.
Ah oui, mais tu viens de fausser le jeu, là.
Mais non, mais tant pis. Non, mais j'ai pas.
Attends,
parce qu'en fait, l'anecdote.
C'est une vraie anecdote, mais c'est pas elle qui a donné.
Non, mais parce que du coup, non. Moi, l'anecdote, c'est moi qui. Elle est fausse. C'est j'ai envoyé un message à la mauvaise personne et c'était un gros secret que je partageais.
Non, mais ça m'est arrivé de ne pas envoyer. Mais comme je m'en souvenais plus.
T'as réussi à faire bugger le jeu, bravo.
Comme je m'en souvenais plus, j'ai inventé celle-là.
D'accord, bon.
Mais ça m'est déjà arrivé de ne pas envoyer à la bonne personne.
Tout le monde a gagné, bravo.
Ok, on n'a pas du tout le temps. Est-ce qu'on a le temps ? On n'a pas le temps. On n'a pas vraiment le temps.
Une petite dernière ?
Allez, rapidement. Alors, mais vraiment très rapidement.
J'ai eu la chiasse dans le bus. 27.
Il y a quelqu'un autour de cette table qui a parlé du fait qu'il prenait le bus 27.
C'était moi tout à l'heure, mais j'ai rien à voir.
Ah ouais ?
Je me désolidarise.
Oui,
mais...
oui, bon, on a tous eu la chiasse. Non,
on prend tous le bus 27.
Non, pas moi. Coco, tu dis qui ?
On fait ça rapidement, Alborz ?
Ouais.
Alborz.
Abou.
Ok, très bien. Et c'est qui ? Qui a sali les...
C'est Jason.
Qui a sali les fauteuils du bus 27 ?
Personne. Bon, fin d'émission. En tout cas, c'était un plaisir. Ouais. C'est moi qui ai eu la chiasse dans le...
Ah, ok.
Alors, j'ai pas chié. Je tiens à le dire.
Entre Clisson et Pâté Tognac.
Mais je la raconte vraiment rapidement. C'est vraiment la pire chose qui m'est arrivée de ma vie entière. Je suis dans le 5e à la mosquée, je quitte la mosquée. À la limite, ça t'arrive à la mosquée, c'est pas grave, il y a des toilettes à la mosquée. Mais ça m'arrive quand je suis à mi-chemin entre la mosquée et chez moi.
Aïe, aïe, aïe.
Je me retrouve avenue des Gobelins. Je prends le 27 avenue des Gobelins. Et là, les gars, waouh.
On peut dire que t'étais à bout de souffle.
Oh, mais tu sais, vraiment, tu sais, tu marches pas normalement.
Ah bah oui, t'es en pingouin.
Tu peux pas marcher vite parce que ça va couler. Tu peux pas marcher trop lentement parce que t'as mal. Tu peux pas t'asseoir parce que si tu t'assois, tout
ça dilate.
Mais c'était tellement éprouvant, c'était dur. Je suis dans le 27, les gens ils me regardent, je suis en train de transpirer.
Aïe.
Non, mais vraiment, j'enlève ma veste, j'arrive chez moi. J'ouvre la porte, je jette mon manteau, je ferme même pas la porte, la clé elle est encore là, je vais aux toilettes et... Mais
chiasser.
Sachez qu'avoir la chiasse, c'est pire qu'avoir envie de faire pipi. Genre c'est vraiment une... Ça m'est arrivé une fois et j'espère plus jamais que ça m'arrive.
Quelle belle fin de phrase, genre. C'est
quelle belle fin d'émission.
D'émission,
t'as pas dit que trop de détails, tu le détailles.
T'étais en jet là-bas, en camis.
Ouais. Mais vraiment, c'est
blanche.
Il y a le truc, faut le relever. Non, Après, ma daronne, elle m'a dit, ah, mais c'est pour. Bref.
Je suis contente d'avoir. D'être passée de Paris Talk Show à ça dit quoi, franchement.
Bah, tu vois la profondeur.
Ouais,
des
j'apprécie.
Ah, t'es au niveau avec tes histoires de S20 là, qui tombent dans les chiottes. Hein. T'as bien compris la DA de cette émission.
Absolument.
C'est bien.
Bon, en tout cas, merci.
Merci à vous.
Merci d'avoir été à mes côtés pour cette émission-là. On revient dès le mois prochain. Début de mois, c'est Loïc qui reprend les manettes. Je vous l'ai dit, on en garde alternée. Pardon, je garde les enfants une semaine, il garde les enfants l'autre semaine. Je vous rends à papa Loïc. En attendant, n'hésitez pas à télécharger l'application Mon Paris FM, disponible sur App Store, Play Store. Nos émissions sont écoutables partout où il faut les écouter. Et je sais qu'on est écouté par des gens comme ça. Donc voilà, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Et à une personne en particulière, love you et gros bisous. Hey. Non, mais oh. Et c'est là où on rend l'antenne. Ça y est, hop, c'est parti. Hey. Musique de fin, Made in France.
Made in France, pas Made in Taiwan. Ok. Je suis pas made in France quand je vois les étudiants devant le Crous faire la queue pour obtenir la moitié d'un casse-croûte. Encore un texte qu'on vilipende, ça faisait longtemps. Normal que je prenne les premiers coups si je suis toujours en avance sur mon temps. Je suis pas made in Algérie, des généraux. Un seul héros, c'est le peuple et y'aura jamais à changer les rôles. Je me sens algérien comme ceux qui ne l'étaient pas à la base. Jacques Vergès, Franz Fanon et la grand-mère d'Edith Piaf. Je suis pas made in Dubaï, là-bas y'a trop de chichis. Y'a que des connards d'exilés fiscaux riches du dropshipping. Je suis plus vieux que leur archipel sorti hier de sous terre. Avec leur super tower que des indiens soudèrent. Ils ont démoli immense des parcs de jeux pour tout âge. Les bâtissants salissant le blast d'Ibn Battuta. Comme une boutique de CBD qu'on appelle Bob Marley. Les rues les plus violentes s'appellent Gandhi à ce qu'il paraît. J'suis pas made in Qatar, nique le foot et le soft power. La World Cup 2022 est pleine de samposeurs. De Népal et de Sri Lankais et Philippins. Mille vies venues d'un parc conteneur comme parquet de filet d'Inde. J'suis pas made in Russia qui censure tous les podcasts. Je veux pas d'un président torché à la mauvaise vodka qui empoisonne ses opposants avec des neurotoxiques. Croire refaire l'image de son peuple à la chirurgie plastique. J'suis pas made in USA, made in America. Ils sont jamais retournés sur la lune, mais deux fois en Irak. Y'a eu du chemin de fait depuis que les Noirs luttèrent. Mais les rues les plus violentes sont celles qui portent le nom Martin Luther. À Thanksgiving, ils se souviennent des Indiens en génocide dans toutes les dindes et passent au Black Friday le lendemain. Pas de calumet, allume les Noirs avec des armes de taille humaine. Pas besoin de détailler, c'est la mentale états-unienne. J'suis pas made in Africa et toute sa corruption. Vouloir être l'égal de l'Europe, c'est clairement manquer d'ambition. Où la misère est beaucoup mieux partagée que les richesses. Où y'a peut-être beaucoup moins de diplômés que de fichesses. J'suis pas made in Saoudia, ni de la Mecque, ni de Riyad. Qui font payer les vieillards, plus de 3K le pèlerinage. Pas made in El Madina. Si mon père m'a donné ce blas, c'est pour honorer son sahab, pas pour surfer sur l'histoire. Made in France. Made in France. Made in France. Made in France. Pur produit des pays pauvres. Je suis un palmier du pays de Caux. De la France périphérique comme Adama. Oublié comme Airbnb à Damas. Politiquement, je suis médiéniste de gauche. Entre Ademo, NOS et Pierre Desproges. Chaque fois que je rappe, y'a v'là les doses. Chaque fois que je prends position, je perds des proches. J'ai comme une envie de prendre les valeurs actuelles. Chez qui y'a plus de connards que de prix Nobel. Vous serez prêts à vendre du papier à des arbres. Même les poissons ont la honte d'être emballés dans vos pages. Ils sont en train de faire de nous leur pire ennemi. Quand ils s'adressent à l'un de nous comme pépita dans pyramide. Prends des coups de matraque dans le pif comme des tests antigéniques. Si tu louves t'es qu'un islamiste, au mieux un indigéniste. Pendant qu'ils vendent des rafales au régime des Émirats. Ou bien l'essence de Total pour les bateaux de la jeune Birmane. Pendant que Pépé peut plus payer, sont plus mal médicalisés. Si j'étais personnel soignant, je me serais déjà radicalisé. Ils reculent l'âge de la retraite, mais avancent l'âge de la mort. Disent que c'est nous qu'appelons meurtre, trop vite cherpé jusqu'à l'aurore. Est-ce que l'État nous protège ou l'État se protège de nous? Je sais plus si la France ça s'épouse, si on s'en passe ou on s'étouffe. Je sais plus si je dois militer ou au contraire me limiter. Est-ce que mes repas de mille sont des réunions en non-mixité? Pour me sentir intégré, j'ai rien trouvé d'autre qu'un défaut. Quand le français perd sa beauté, alors il défigure les autres.
Mon Paris est fait.